Par contre, la rencontre, ça oui, ça j'aime. Donc, d'ailleurs, moi, j'ai quand même construit quelque chose pour pas partir de rien. Et je l'ai un peu construit en me disant que j'allais vous parler de mon parcours. Et dans ce parcours, j'allais m'arrêter sur les outils sur lesquels je suis tombé au cours de ce parcours, mais aussi les rencontres. Les rencontres parce que je suis quelqu'un qui travaille très très rarement seul. Je suis quelqu'un qui travaille plutôt avec les autres. Et donc chaque nouvelle rencontre a été l'occasion de changer soit mon approche du spectacle, soit mes techniques de travail, soit ma façon de voir les choses. Voilà, je suis quelqu'un qui est dans le doute permanent et qui n'a aucune technique, aucune démarche à revendiquer, aucune technique de travail spéciale à revendiquer. Je suis pas quelqu'un qui creuse un sillon depuis des années, pas du tout. Je suis quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens. Voilà. Le premier souvenir que j'ai d'un rapport avec le son, c'est grâce à mon papa qui avait construit un magnétophone Revox en kit, le G36. Le G36, c'est vieux. Hein. Toi, tu connais. Allons. Le G36, il avait un œil magique. Le système de Vumette, c'était un système d'œil magique. J'ai 4-5 ans. Hein. Ce premier souvenir, c'est j'ai 4-5 ans, donc l'œil magique, il me plaisait beaucoup. Et c'est un magnétophone, alors c'est un espèce de meuble énorme que j'ai encore. Enfin, énorme, il ne faut pas exagérer, mais dans lequel il y a un haut-parleur. Et donc, de temps en temps, mon père me fait écouter des histoires avec ce magnétophone, notamment Le Petit Prince, raconté par Gérard Philippe. Voilà, j'ai jamais rien compris à cette histoire. Alors, jamais. Bon, enfin, bref, ça reste un mystère. Et puis de temps en temps, il essaye de m'enregistrer. Et ça, je pense que vous avez déjà vu Jérôme Nottinger. C'est déjà fait, ça. Donc puis vous avez déjà manipulé des magnétos, j'imagine. Donc vous savez ce qui peut se passer avec un magnéto qu'un haut-parleur intégré, quand quelqu'un qui ne sait pas. Mon père, il n'était pas ingénieur du son, il était électronicien. Hein. Il essaye de m'enregistrer. Donc j'entends mes premiers phénomènes d'écho à bande. Et puis j'entends mes premiers Larsen aussi. Voilà. Et j'ai un souvenir très fort de ça, de ces très beaux Larsen que génère ce genre de machine-là. Voilà, la réinjection du micro dans le haut-parleur, en plus avec le phénomène d'écho, donc une espèce d'écho qui se transforme. Voilà, ça c'est mon premier, tout premier rapport au son. Un petit peu plus tard, je vais me mettre à la batterie, en autodidacte complet. Donc je vais explorer le monde de la percussion, toujours le monde du son, parce que ma batterie, elle est composée, c'est une batterie de récupération, et elle est additionnée d'espèces de trucs qui transforment le son des cymbales, d'éléments étrangers à une batterie habituelle. Mais en tout cas, je vais aussi aborder le son par ce biais-là, par un jeu en direct. Et il se trouve que je vais travailler en groupe, donc on est dans les années... fin des années 70, et je monte un groupe avec un clavier. Et on est plutôt du côté de la musique de Pink Floyd, de la musique de Yes. Je ne sais pas si vous connaissez Yes, mais voilà, on est plutôt dans le moment du rock progressif et puis du jazz rock. Et donc, le clavier avec lequel je joue a un synthétiseur analogique Minimoog. Si vous savez ce que c'est qu'un synthétiseur analogique minimum, c'est un synthé de ces années-là, hein. C'est un synthé qui est sorti au tout début des années 70. Et ça va aussi marquer beaucoup mon travail parce que, comme je suis le batteur, on répète chez mes parents. C'est toujours comme ça, c'est toujours chez le batteur qu'on répète. Et donc le clavier laisse son Minimoog chez mes parents. Et le jour où le groupe se sépare, le Minimoog il reste. Donc le mini Moog, voilà, ça va être un instrument. J'ai toujours ce mini Moog et je l'ai toujours utilisé, voilà, depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans. Donc et en plus, je l'utilise en n'étant pas clavier. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas utiliser un clavier. Donc j'utilise vraiment le synthétiseur comme un élément de recherche sonore. Je travaille sur les timbres, mais pas du tout sur le côté mélodique. Et encore moins harmonique, puisque c'est un instrument monophonique, on ne peut faire qu'une seule note à la fois. Mais moi, je ne fais pas de note avec, pas du tout. Voilà, donc un rapport au son qui est quand même un peu en lien avec la musique, mais beaucoup sur la matière sonore, la matière acoustique, donc avec la batterie, et la matière électronique avec le synthétiseur analogique. Et puis, bah, pour rassurer mes parents, je vais chercher une formation après le bac. Moi, je veux faire de la musique, ça c'est clair. Je ne sais pas très bien. Alors, je ne suis pas d'une famille très cultivée. À la maison, il y avait plein d'appareils de son, encore une fois, parce que mon père faisait de l'électronique. Mais lui, ce qu'il écoutait dessus, c'était plutôt Richard Klederman, Michel Fugain, et puis ça s'arrêtait là, quoi. Donc je ne connaissais pas grand-chose à la musique, à part celle que me faisait écouter mon grand frère, donc les trucs qui venaient un peu d'Angleterre plutôt, Pink Floyd et compagnie. Et donc, ben, je me dis, si je veux faire de la musique et si je veux rassurer mes parents, je vais faire une école de son. Donc on est dans les années 80, hein, tout début des années 80. À cette époque-là, c'est soit Louis-Lumière, voilà. Je me plante totalement au concours. À Louis-Lumière, à l'époque, les concours, c'est plus du tout pareil maintenant. Hein, mais à l'époque, quand on faisait les concours Louis-Lumière, je crois qu'on était 2000 à se présenter à l'école. Donc les sélections, vous imaginez, quoi. Voilà. Et puis il y a une autre école qui est l'école de théâtre, une école qui s'appelle l'ENSAT, qui aujourd'hui est à Lyon, mais à l'époque était à Paris. Et là, il y a moins de candidats, donc j'ai de la chance, je suis reçu à cette école, sachant que j'ai jamais mis les pieds dans un théâtre. Mais voilà, c'est comme ça. Enfin, à cette époque-là. Et donc, je découvre les techniques du son par le biais du théâtre, techniques du son et de la lumière, parce qu'à l'époque, quand on voulait faire du son à l'ENSAT, il fallait aussi faire de la lumière. Ce qui est très bien, d'ailleurs. Ce qui était très bien. Donc, c'est par le biais du théâtre que je vais découvrir, que je vais me former aux techniques du son. Alors, je dis que je suis un technicien du son, je corrige toujours, parce que ingénieur du son, le terme d'ingénieur, il est, à mon avis, il est un peu galvaudé en France. Alors, je crois que maintenant, ça existe avec la formation du Conservatoire de Paris. Je crois qu'ils peuvent revendiquer le terme d'ingénieur. Mais bon, et même dans les nomenclatures du métier, je crois que ça n'existe pas, effectivement. Mais je parle de ça parce que c'est un truc que moi, j'ai découvert en côtoyant beaucoup de techniciens son. Je trouve qu'il y a une espèce de mystification du domaine du son, et notamment de la part des gens du son et des techniciens du son. Et donc, un des premiers trucs qu'ils font, c'est qu'ils se font appeler ingénieurs du son, parce que voilà, ça fait c'est un peu plus friable. Et puis, il y a cette habitude qu'il y a chez les gens du son à toujours entretenir un langage complètement ésotérique que personne ne comprend. Et voilà. J'ai un peu du mal, moi, avec ça, mais je connais bien ça. voilà. Donc, je deviens un technicien lumière et son de spectacle, et particulièrement de théâtre. Ça veut dire que je vais démarrer en travaillant pour des pièces de théâtre, donc avec des comédiens, avec des metteurs en scène, avec des décorateurs, avec des éclairagistes. Voilà. Et je participe à un travail d'équipe, en fait. C'est très très important dans mon parcours et mon approche du son. Et ça veut dire que ma première approche du son et de la création sonore... Alors je sais dès l'école que je vais faire de la création sonore, que je ne vais pas me contenter de faire de la technique, que j'ai envie d'une démarche artistique. Et puis j'ai de la chance, je suis le seul dans ma section à vouloir faire du son, tous les autres veulent faire de la lumière. Donc je vais pouvoir beaucoup pratiquer dès l'école la recherche sur le son. Et donc forcément, il y a deux choses qui vont attirer mon attention. L'outil principal à cette époque-là, c'est le magnétophone à bande. Et l'autre dimension qui est très importante au théâtre, c'est la voix. C'est la voix du comédien. On travaille en lien avec des comédiens, on travaille avec la voix des comédiens. Et ça va aussi beaucoup marquer mon travail, parce que je vais beaucoup m'aventurer sur ce terrain-là. Et c'est quelque chose qui va durer, qui continue encore aujourd'hui. Par exemple, je vais beaucoup m'intéresser à ce qu'on peut créer. Alors là, malheureusement, je n'ai pas d'exemple enregistré, mais c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé maintenant. Là, je vous parle, je sors de l'école de théâtre, on est en 1984. C'est important, hein, parce que vous savez qu'il y a eu des mutations qui sont arrivées entre-temps. Moi, j'ai connu le passage, comme vous, le passage de l'analogique au numérique. Voilà. Je vais m'intéresser donc au travail qu'on peut faire de création avec la... Alors, d'une part, qu'est-ce qu'on peut amener comme matière sonore dans un contexte scénographique, c'est-à-dire que comment le son est un élément du décor, comment le son est un élément de la scénographie, comment le son qu'on va produire, qu'on va stocker sur une bande et qu'ensuite on va diffuser pendant le spectacle, doit répondre avec la voix des comédiens. Mais par ailleurs, je vais aussi m'intéresser à quelle démarche de création on peut avoir en partant de la voix, en partant du texte, en partant de la voix. Et je vais m'amuser à faire un gros, gros travail de montage sur les voix avec deux grandes directions. Le fait de faire enregistrer à des comédiens, des comédiennes ou pas des comédiens, des enfants, des personnes âgées notamment. Je demande à ces différentes personnes d'enregistrer le même texte et après je vais faire un montage qui fait qu'on va entendre le texte dit par plein de voix différentes. Voilà, ça c'est une technique qu'on entend beaucoup maintenant. Mais à l'époque, c'était pas très très répandu. Et comment ça amène une musicalisation, évidemment, d'un texte, puisque les intonations des gens ne sont pas les mêmes, la façon de placer la voix n'est pas la même. Donc ce simple fait de passer d'une voix à une autre amène une musicalisation du texte. Et puis l'autre possibilité, c'est de le faire avec une seule personne, qui peut être un comédien ou une comédienne, et de lui demander d'enregistrer différentes versions du même texte, et après on va faire la même chose, un travail de montage, qui permet aussi de s'amuser à faire des répétitions, des choses comme ça. Enfin, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui doivent pratiquer ça. Sachant qu'il y a une dimension qui est importante, je trouve, moi, à cette époque-là, que quand on fait ça à l'époque sur magnétophone à bande, ça prend du temps. Ça, c'est un truc qui moi, me frappe énormément dans la bascule qui a existé entre l'analogique et le numérique. C'est le rapport au temps dans le travail de composition, dans le travail de recherche sur le son. C'est qu'on va très, très vite aujourd'hui. Et à l'époque où on ne pouvait pas aller vite, le temps amenait quand même une dimension qui me paraît importante. Alors, n'allez pas croire que je suis un anti-numérique et un anti-technologie numérique. Hein. J'utilise beaucoup ça. Hein. Mais je suis assez méfiant, en fait, des nouveaux réflexes que ça induit. Voilà, donc un travail sur la voix qui va beaucoup m'intéresser et qu'après, je vais prolonger en live avec un gros travail avec un chorégraphe qui s'appelle Vincent Dupont, qui est quelqu'un qui aime beaucoup travailler sur la notion du filtre. Et donc, avec lui, on va beaucoup travailler là-dessus, sur le filtre de sa voix, sur la transformation de sa voix. C'est quelqu'un qui se met, lui, en scène, parfois avec d'autres danseurs, hein, mais qui, lui, a tout un travail de production vocale, un espèce de langage inventé, et qui demande à ce qu'on filtre sa voix, à ce qu'on transforme sa voix. Donc, moi, en création sur ces spectacles, je vais beaucoup travailler sur ce que lui appelle le filtrage, le fait de transposer sa voix dans une autre dimension. Alors évidemment, en faisant un espèce de traitement acoustique de l'espace, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais aussi en utilisant des traitements très 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 prononcés, des distorsions assez énormes, des transformations par pitch, ce genre de choses-là. Mais là, on est typiquement dans un domaine où c'est difficile de vous faire écouter des choses comme ça, et ça c'est un des gros problèmes que j'ai, moi. Là, en fait, je suis dans une configuration que j'exècre. Voilà. parce que je viens d'une époque où quand on faisait du son, il fallait du matériel, il fallait du gros matériel, et j'en suis resté là, en fait. Et donc, en fait, moi, dans mes spectacles, quand je fais un concert en solo, je viens avec un camion, en fait. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la multidiffusion, avec plein de haut-parleurs, qui aime bien les vieilles machines, les vieux synthés... Et voilà, donc qui aime bien travailler avec les Larsen, donc avec des dispositifs qui sont toujours énormes. Voilà. Donc, et c'est vrai que ce genre de configuration-là, moi, je ne connais pas, en fait. Et l'autre caractéristique aussi, pardon, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. L'autre caractéristique aussi, je pense, de mon travail, c'est que je travaille sur scène, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disque de ce que j'ai fait, ça n'existe pas. Pourtant, moi, en tant qu'ingénieur du son, technicien son, preneur de son, j'ai fait un paquet de disques pour les autres. Mais voilà, moi, je n'ai jamais sorti de disque. Je suis vraiment quelqu'un qui a un rapport direct au son et au spectacle vivant. Et donc, j'ai très peu d'enregistrements de ce que j'ai moi-même produit. Quoi. Voilà. Sachant que, par ailleurs, je suis quelqu'un qui ne stocke rien, qui ne garde rien. Voilà. Donc, je vais quand même vous faire écouter deux ou trois choses, hein, mais je n'ai pas grand-chose, en fait, à faire écouter. Il faudra venir voir mes spectacles. Voilà. Sachant qu'en ce moment, on tourne beaucoup, donc il y a moyen de venir les voir et les entendre. Alors, sur le travail, sur... Oui, donc le magnéto, bon, ça vous avez vu avec Jérôme Nottinger, vous savez que c'est un instrument, ça reste, pour moi, c'est un instrument de musique. Oui, alors la personne que je vais rencontrer à l'école de l'ENSAT, mon formateur en son, c'est Étienne Bultinguer, Étienne Bultinguer, c'est quelqu'un qui démarre en tant que prof à l'époque. Donc, il n'est pas très doué pour les cours théoriques. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va nous apprendre à manipuler les appareils sans aucun tabou. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous expliquer que tel auxiliaire, ça sert à faire des retours de scène et tel auxiliaire, ça sert à aller vers des effets spéciaux. Voilà, un auxiliaire, c'est une sortie, il y a des entrées et on fait ce qu'on veut avec. Pareil avec un magnéto. Ce qui fait que très vite, on a cette sensation que ces appareils-là peuvent devenir des instruments de musique. Ça, vous avez pu le voir avec Jérôme. Vous avez pu voir à quel point on peut effectivement aller très loin avec juste un magnétophone à bande. Donc moi, je vais garder ce rapport-là. Et je pense qu'il faut... Bon, j'ai vu qu'il y en avait des magnétophones ici. Donc c'est des instruments qui restent, à mon avis, des beaux outils à utiliser. Moi, j'en ai une collection de magnétophones à bande. L'autre chose qui va me frapper dans l'approche du son pour le théâtre, c'est le fait de ne pas travailler avec des normes. Je ne sais pas vous comment vous abordez votre travail, mais il y a tout un secteur de la création sonore qui essaye de s'attacher aux normes préétablies. Soit ici, vous avez une norme. Voilà, vous avez décidé que c'est quadriphonique. C'est une norme. On pourrait, et d'ailleurs, vous m'avez imposé une écoute quadriphonique. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais je taquine, hein. Je taquine évidemment. Mais voilà, pourquoi d'emblée quadriphonique? Pourquoi les quatre mêmes haut-parleurs? Je ne sais pas. On est bien d'accord. Je l'ai vexé. Il est susceptible, hein. Je taquine évidemment. C'est une façon d'attirer l'attention là-dessus parce que je trouve qu'on est en train de se perdre complètement là-dedans en ce moment. Dans un espèce de retour aux normes que je ne comprends pas très bien. Je vois de plus en plus de compositeurs qui travaillent pour le 5+1. Je ne sais pas quel rapport vous avez les uns et les autres avec le 5+1. Pour moi, si on est strictement à la création sonore, c'est un standard totalement aberrant qui n'a pas grand intérêt. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'a absolument pas été conçu pour l'écoute, il a été conçu pour l'image. Voilà. Et alors... Je me permets d'en parler un petit peu parce qu'il se trouve que j'ai été amené, j'ai rencontré à un moment de ma vie Benoît Delbecq, qui est un musicien, un pianiste. Et Benoît Delbecq, c'est quelqu'un qui est un grand amateur de sons de très haute qualité. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais il y a quelques années, il y a un nouveau standard numérique qui a failli émerger. C'est le Super Audio CD. Vous avez entendu parler de ça? Super Audio CD qui a tenu 2 ans à peu près. On peut encore acheter quelques super audio CD, mais le standard a été abandonné officiellement. C'était un standard qui avait été inventé par Sony et Philips, et c'était le standard numérique top qualité. C'est très dommage, hein, que ça ait disparu. Je vous signale quand même que le standard professionnel existe toujours. Ça s'appelle le DSD ou le DXD. Voilà, les deux formats existent. Sachez que ça existe, sachez qu'il existe dans le monde un standard numérique de très 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 haute qualité. Et il se trouve que j'ai eu la chance, grâce à Benoît, d'enregistrer 3 disques en Super Audio CD. Le Super Audio CD, c'est un système en one bit flottant, pour ceux que ça intéresse, et qui échantillonne à 1 million et quelques kilohertz. Donc voilà. En gros, le Super Audio CD, c'est tous les avantages de l'analogique et tous les avantages du numérique. C'est un système qui n'a pas du tout de bruit de fond. Voilà. Pour moi, c'est le principal avantage du numérique, en dehors du stockage. Mais par ailleurs, c'est un système où on n'entend plus l'échantillonnage. Voilà. Moi, je continue à travailler avec ce système-là. Je me suis acheté une station qui me permet de travailler en DSD ou en DXD. Et je reviendrai dessus, d'ailleurs, tout à l'heure. Et donc, j'ai dû mixer en 5+1. Ouais.
Mais justement, tu disais que la codophonie n'était pas...
Non, non, le 5+1, je parlais du 5+1. Pardon, le quadriphonie, je ne sais pas. En fait, pour tout vous dire, aucune des normes existantes ne m'intéresse, en fait. Parce qu'en fait, personnellement, quand je conçois, c'est mon rapport au spectacle vivant, si tu veux, à partir du moment où ce que je vais proposer se passe dans une salle et où j'ai le droit de mettre les haut-parleurs où je veux, je mets les haut-parleurs où je veux. J'ai aucune raison, mais même de faire de la stéréophonie. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que c'est une norme, et je ne vois pas pourquoi je devrais... Je ne suis pas en train de faire un disque, je ne suis pas en train de faire une émission de radio, je suis en train de faire un spectacle vivant, donc je n'ai pas besoin de répondre à une quelconque norme. Et puis d'autre part, ces normes-là, il n'y a pas deux personnes qui entendent la même chose. Loin de là. Loin, loin de là. Oui, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais malgré tout, moi, mon premier réflexe, ça va être de dire, tiens, où je mets mon premier haut-parleur ? Déjà, je ne pense pas par paire de haut-parleurs. Où est-ce que je vais mettre mon premier haut-parleur ? Pourquoi je vais le mettre là ? Qu'est-ce que ça va donner dans la salle ? Après, où est-ce que je vais en mettre un autre, etc., etc. Réellement, c'est réellement comme ça que je travaille en conception. De la même façon que je travaille en conception en pensant en même temps le contenu sonore et sa diffusion. Et par ailleurs, je vais mélanger le type de haut-parleur. C'est-à-dire que je vais choisir le type de haut-parleur aussi en fonction de l'endroit où je vais le mettre dans la pièce. Voilà. Donc moi, mon premier réflexe, c'est la monophonie. C'est même pas la stéréophonie. Et puis, bah, c'est au fur et à mesure, c'est une multi-monophonie. Mais franchement, en fait, ce qui me gêne dans ce genre de standard-là, c'est que c'est des faux standards. C'est des standards qui sont intéressants pour un point d'écoute réel. Et en spectacle vivant, on est rarement dans ce cadre-là. Voilà. Ça ne veut pas dire que je veux forcément contrôler ce que tout le monde entend. Hein. Ça peut m'intéresser dans certains cas. Et quand je veux aller à ce niveau-là, moi, la réponse que j'ai trouvée, c'est le casque. C'est la seule solution pour être sûr que tout le monde entend la même chose partout dans la pièce. Voilà. Donc c'est un truc que j'ai développé, les concerts sous casque. C'est un truc que je continue de faire. Mais c'est vrai que j'ai un petit problème avec les standards, et particulièrement avec le 5+1, parce que le 5+1, il a été conçu... il y a une enceinte au centre, ça correspond à l'écran, hein, en fait, hein, c'est fait pour les voix. Ensuite, on a une espèce de stéréo classique qui fait que cette enceinte au centre devient un peu bizarre. Et puis après, on a des enceintes arrière qui sont très sur le côté, ce qui fait qu'on n'a jamais vraiment de sensation d'un son réellement arrière. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était très galère de mixer en 5+1. Alors, ça, c'est un peu plus intéressant que la stéréophonie, mais pour moi, ça reste une espèce de super stéréophonie.
C'est peut-être que tu considères comment le haut-parleur, justement, est là.
Comme un espèce... Alors, j'ai un rapport qui est probablement très influencé par le fait que j'ai un peu collaboré avec Pierre-Henri. Et Pierre-Henri considère ses haut-parleurs comme des interprètes de sa musique. Voilà. Donc j'ai un peu ce rapport-là aussi. Le haut-parleur est un interprète de la musique.
Peu importe après le standard et comment on va les utiliser, les mettre le haut-parleur, mais il y a peut-être une autre forme aussi à donner au haut-parleur, que ce soit un standard ou pas.
C'est-à-dire, je ne comprends pas ce que tu veux dire.
On peut utiliser une quadriphonie d'une manière où tous les haut-parleurs vont faire qu'un, en fait.
Ah oui, oui, ça c'est possible. Hein. Oui, 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 tout à fait. Non, non, mais...
L'étude avec le standard, je ne vois pas en fait...
Je trouve dommage que dans une situation de spectacle vivant, on fasse une installation standard. C'est ça que je trouve dommage. Tu vois pas ce que je veux dire ? Je trouve ça dommage. Je ne connais pas de standard qui fonctionne dans toutes les salles. Et voilà, en fait... C'est ça
la question du spectacle
vivant. Ouais. Ah oui, oui, bien sûr, mais là je parle de spectacle vivant. Après, évidemment, une création qui doit être écoutée sur un disque, sur une installation stéréo, sur un standard, ça a un intérêt. Hein. Mais de toute façon, vous savez qu'en ce moment, les standards explosent complètement. Hein. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu. Alors, il se trouve qu'en ce moment, moi je suis en relation avec France Télévisions pour un projet. Eux-mêmes ne savent pas vraiment vers quel standard. On en est au 22+2 actuellement. La télé du futur sera probablement en 22+2. Je crois qu'il y a 5 enceintes derrière l'écran, il y a 2 caissons de grains, enfin, il y a des enceintes partout. Quoi, en fait.
Pour des utilisations domestiques.
Ouais, ouais. Alors.
C'était pas une prochaine recherche sur les familles d'endroits
ou... Non, c'est parce que. Alors c'est compliqué, mais allons-y, parlons-en, puisque de toute façon j'avais prévu d'en parler. Alors, il y a un autre domaine que j'aime bien explorer, c'est l'écoute sous casque. Ça avait commencé avec Vincent Dupont, qui avait proposé une création avec des danseurs qui étaient très très loin du public, qui étaient au moins à 15 mètres du public. Et il voulait donc qu'on ait cette image très lointaine et un son très proche. Voilà. Donc l'idée, c'était que chaque spectateur avait un casque. Et en fait, il m'avait... Ah oui, non, en fait... Je me rends compte que moi-même que je refais l'histoire. Je croyais que ça m'avait influencé pour faire une création après, mais c'est l'inverse. J'avais déjà fait ma création avant. Pour le festival des 38e Rugissant, j'avais répondu à un concours. C'est la seule fois de ma vie que j'ai fait un concours. Et j'avais imaginé une fiction à écouter sous casque. Voilà, et c'est après que j'ai travaillé avec, avec Vincent Dupont. Et j'aimais bien cette idée du casque parce que ça permettait justement, là pour le coup, de contrôler, de contrôler vraiment ce que chaque personne allait écouter. D'ailleurs, c'était une installation pour une personne. Il y avait une platine et un casque. Et ce que j'ai aimé dans ce travail-là, c'est d'explorer les, toutes les possibilités de cette écoute au casque. Alors, je parle d'une écoute au casque traditionnelle. Vous avez déjà abordé ce, cette question de l'écoute au casque ou pas ? Non ? Avec qui ? Donc, il vous a parlé de la particularité de l'écoute au casque ? De ce qui n'est pas possible à faire au casque ? Oui, ça c'est clair. Et qui probablement va le devenir. C'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas créer un espace virtuel au casque. C'est pas possible. Hein. La seule chose qu'on crée, c'est un espace intracrânien dans un casque. Mais ça m'intéressait bien. Ça m'intéressait bien parce que ça renvoie aussi le, la personne qui écoute à ses propres hallucinations, à, ses propres, à sa propre mémoire. Et j'aime bien travailler sur ce rapport-là. Je vous fais écouter un tout petit bout de... Ouais, je vais en parler. Je pensais que vous en avez parlé.
Bah après, il nous en a parlé, mais la manière différente, avec les mots différents, c'est pas
trop quoi. Ouais, d'accord. Vous savez comment on localise les sons ? Ou pas ?
Pardon ?
Et vous savez comment on localise les sons ?
Différentes
intensités.
Ouais. Et tu parles de phrases binaurales ou pas ?
Non, je ne parle pas de binaurale. Je parle de comment on localise les sons.
C'est le temps différent.
Je parle en écoute naturelle. Comment on localise les sons ?
Différence.
Différence de quoi ?
De retard.
C'est tout ?
De filtres.
De filtres, ouais, qui sont liés à quoi ? Ouais, qui sont liés à quoi ? Au quoi ?
Au Doppler.
Ah non, ça c'est... Qui sont liés au pavillon de nos oreilles. On ne vous l'a pas expliqué, ça ? C'est un truc qu'on oublie tout le temps. Hein. C'est pour ça que je sentais venir le truc. Hein. C'est un truc qui est tout le temps oublié, ça. Mais si vous vous bouchez une oreille, vous savez tout, vous êtes à peu près encore capable de localiser les sons. Hein. Parce que vous avez le, c'est à ça que sert votre pavillon. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est quand un son arrive au niveau de votre pavillon, il y a tout un tas de réflexions qui se font sur le pavillon de votre oreille. D'accord ? Avant que le son rentre à l'intérieur. Ce qui crée des micro-retards et donc ce qui crée un filtrage. Si je bouge un tout petit peu l'oreille par rapport à la source sonore, ça ne va pas être les mêmes retards, ça ne va pas être le même filtrage. D'accord ? Donc ce tout petit mouvement de tête me permet de savoir d'où vient un son avec une seule oreille. C'est un truc qui est, tout à, qui est systématiquement oublié, ça, quand on parle de l'audition. Or, c'est un élément qui est assez important. Et par ailleurs, vous avez raison, le fait qu'il y a un retard, si le son vient de, d'un certain endroit dans l'espace, il y a un retard entre l'arrivée à l'oreille droite, puis l'oreille gauche, etc., puis un retard d'intensité. Mais ce rapport entre le mouvement de la tête... Et, la change, et les micro-changements du timbre du son au niveau du pavillon, c'est aussi un élément super, super important, et vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Ben voilà, quand vous avez un casque, quand vous bougez la tête, il n'y a rien qui change. Donc le cerveau, comme il n'y a rien qui change, sa déduction, mouvement du cou, aucun mouvement, de, aucune transformation du son, le son vient de la boîte crânienne, c'est la seule solution. C'est pour ça hein, qu'on n'a jamais la sensation... Avec un système des casques de classique, on n'a jamais la sensation que le son vient de l'extérieur. Ça va ? C'était plus clair ? Oui, l'Alsace. C'était plus clair en Alsace ? voilà, mais moi, je trouve que ça peut être intéressant. Encore une fois, parce que ça rejoint l'écoute intime de chaque personne. Pour rentrer. D'ailleurs, quand on fait des concerts sous casque, avec ce système-là, on constate que assez vite les spectateurs ferment les yeux. Ils ont envie de s'échapper de l'endroit d'où ils sont et ils ont envie d'aller dans leur intimité. Parce qu'il y a une autre chose qui, je pense, est importante à savoir quand on parle de l'écoute, et je me permets de le dire parce que je sais que c'est souvent oublié. Alors pourquoi je me permets de parler d'écoute un petit peu ? C'est parce que quand je suis sorti de la rue Blanche, on m'avait un peu appris comment fonctionnait l'oreille, mais j'ai trouvé que c'était pas suffisant. Donc je suis allé suivre des cours du soir à l'IRCAM qui étaient donnés à l'époque par Stephen McAdams. J'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Donc j'ai fait un travail de recherche personnelle pendant 4 ans, ce qu'on appelle une recherche action, un vrai travail de recherche scientifique, où j'ai potassé tous les bouquins de psychoacoustique que je pouvais trouver accessibles à cette époque-là. Et j'ai découvert quelque chose dont personne ne m'avait jamais parlé, et je constate qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas très connu. Quand, là, en ce moment, je suis en train de vous parler, vous êtes en train de me regarder, vous êtes en train de m'écouter, à votre avis, est-ce que c'est une expérience totalement objective? Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, au niveau du cerveau? Qu'est-ce qui se passe comment marche ce système de perception? Pardon? Oui, il veut me faire rentrer à chaque fois dans des cases, dans des normes, le binaural, écoute. Je sais pas, je connais pas de... Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors il y a ça, ça c'est vrai, c'est un système qui fonctionne effectivement. Non mais par exemple, est-ce que vous pensez que nous voyons tous la même enceinte? Voilà. Est-ce que vous pensez ça? Parce que moi j'ai longtemps pensé qu'effectivement nous voyons tous la même enceinte. Or on sait depuis, alors je crois que les premières personnes qui ont travaillé là-dessus c'était en 94, on sait que c'est pas vrai en fait. On sait que l'image mentale qui se crée à l'intérieur de notre cerveau n'est pas directement en provenance de nos organes sensoriels. La voix que vous entendez actuellement, c'est une voix que vous fabriquez chacun de toutes pièces à partir effectivement des données que vous envoie votre oreille et à partir de votre mémoire. Voilà. Et comme on n'a pas tous la même mémoire, on n'entend pas tous la même chose. Mais ça, c'est une réalité. D'ailleurs, vous pouvez en faire l'expérience là aujourd'hui. J'ai juste attiré votre attention là-dessus. Vous êtes arrivé dans la salle, vous m'avez regardé, vous avez observé une certaine physionomie de la personne, et on en reparle dans 2 heures. Voilà, on verra comment vous aurez. Je pense que vous l'avez déjà constaté, ça. Mais si j'attire votre attention là-dessus, vous allez encore plus le constater. Voilà, vous ne me verrez pas de la même façon dans 2 heures. Voilà, parce que le premier réflexe a été d'aller chercher dans la mémoire quelqu'un que vous avez déjà vu, et puis moi je fais la même chose avec vous, hein, évidemment. Voilà, la première image que vous êtes faite de moi correspond à tout un tas d'expériences que vous avez déjà eues avant, de gens que vous avez déjà rencontrés, et puis petit à petit, vous avez de plus en plus d'informations qui vous viennent effectivement de vos yeux, et l'image se précise en fait, l'image s'affine, etc. etc. Et plus le temps va passer, plus l'image que vous allez avoir de moi va être différente et un peu plus précise et certainement un peu plus objective. Je ne dis pas que cette enceinte elle est très différente pour tout le monde. Mais bon, voilà, on ne voit pas tous la même chose, on n'entend pas tous la même chose. Donc ça veut dire qu'on est en lien avec notre mémoire en permanence, pardon. On a vraiment une zone du cerveau qui fabrique nos images mentales à partir des organes sensoriels et à partir de la mémoire. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment une fabrication des images. C'est pour ça que le nouveau-né ne comprend rien au monde. C'est parce qu'il a très peu d'éléments en mémoire. Et donc, son image mentale, elle est complètement brouillée, elle est complètement floue. Et c'est à force d'expériences qui vont être stockées dans la mémoire que sa perception du monde va s'affiner. C'est un des avantages qu'il y a à vieillir. Bien. Perception du monde s'affine en vieillissant. Et je trouve que quand on fait de la création, c'est important de savoir ça. Moi, depuis que je sais ça, vous savez, quand vous travaillez avec des metteurs en scène de théâtre, il y a souvent ce truc qui revient de dire « Alors, à tel moment, on va faire ça, et le public, il va penser que, et le public, il va se dire que, et le public, il va voir que. » Eh bien, moi, depuis que je sais ça, j'ai abandonné ce rapport-là à la création. Je propose quelque chose et puis chacun en fait ce qu'il veut, quoi. En gros, c'est ça. Puisque de toute façon, on n'a pas la même perception au monde, de toute manière. Même, ce que je veux dire, c'est que même d'un point de vue physiologique, si en plus on ajoute effectivement chacun notre psychologie, alors là, évidemment, on part encore plus loin. Mais déjà, en termes physiologiques, on n'a pas tous le même rapport au monde, on n'a pas tous la même perception du monde.
Si on prend l'exemple de l'enceinte, personne ne voit un énorme choc.
Non, on est d'accord. Enfin, un bébé peut-être. Mais non, on est d'accord que plus on a acquis d'expérience, et plus effectivement notre image s'affine. Et plus elle s'affine, et plus elle va dans une uniformité générale. Mais malgré tout, Je viens de travailler sur un spectacle qui est une espèce de reconstitution de l'enregistrement de l'album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Moi, mon premier rapport à cet album, c'est de l'avoir écouté un jour au casque quand j'étais gamin. C'était mon grand frère qui m'avait fait écouter ça au casque. Voilà. Et puis après, je l'ai écouté de temps en temps, et puis après, je ne l'ai plus écouté. Et puis là, pour le boulot, il a fallu que je l'écoute, puisque l'idée, c'était qu'on recrée les timbres avec les instruments d'époque, etc. Et donc, j'ai écouté cet album, je ne sais pas, 300 fois. 300 fois. Et ça a été une nouvelle fois l'occasion de constater à quel point on peut changer notre mode d'écoute. À quel point, à force d'écouter, il y a des choses, effectivement, qui se précisent. Dans Dark Side of the Moon, maintenant, j'entends les montages. J'entends les points de montage. J'entends les chevauchements. Vous savez, le morceau de Great Gig in the Sky, qui est une espèce d'improvisation vocale, j'entends les chevauchements quand ça passe d'une version à une autre. Sur la caisse enregistreuse du tube Monet, le son de la caisse enregistreuse, je peux vous dire qu'il a été enregistré avec un petit magnéto portable. J'entends le pleurage sur juste ce son qui dure même pas une seconde. Donc, tu vois qu'on peut quand même changer, on peut changer son rapport d'écoute, quoi, au fur et à mesure du... Vous, quand vous travaillez sur vos projets, il y a des micro-clics, des choses comme ça que vous entendez. Si vous les faites écouter à quelqu'un qui n'est pas spécialement sensible au son, il ne les entend pas, ces clics. Mais vraiment, il ne les entend pas, quoi. Ouais.
Alors, le projet, c'est l'échantillonnage de la batterie de Mason pour
Ah, non. Non, c'est un spectacle, hein. C'est un spectacle sur scène et qui tourne en ce moment. Hein. Et en fait, on a réuni les synthés de l'époque. En fait, les deux particularités du spectacle, c'est qu'on joue sur les synthés d'époque, donc le Minimoog, le synthé AKS, et on fait tout en live, y compris les séquences, y compris les bruitages, en fait. On fait même les bruitages sur scène. En fait, c'est une espèce de reconstitution vraiment du... Sur scène, ça ressemble plus à un studio qu'à une scène de rock. On est neuf sur scène, hein. Et l'idée, c'est ça, c'est de jouer l'album en direct, mais au plus proche des timbres de cette époque-là.
L'idée est de sortir une version pour échantillonneur de batterie avec,
Le son de Nick Mason. C'est vrai ?
L'album à la batterie.
Ah, ça, ça
avec
pas.
Les sons...
Ah ouais. Nick Mason. Mmh. On est encore parti dans tous les sens. Je vous fais écouter, le temps que je réfléchisse à ce que je voulais dire, je vous fais écouter juste le début d'une fiction que j'avais... Alors, c'est normalement, ça a écouté au casque, mais c'est pas grave, ça va me permettre de vous faire écouter aussi un petit travail sur la voix que j'avais fait à une époque. Puis vous avez déjà une petite idée. Ça s'écoute au casque. Ça me fait penser que un des intérêts aussi de travailler pour le casque, c'est les possibilités de très très grande dynamique de travail. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur des moments avec des sons qui sont vraiment très 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 faibles et avoir des dynamiques un petit peu plus puissantes. Alors les effets d'espace que vous avez entendus là, évidemment, ça marche pas pareil au casque. Et alors je ne sais pas si vous avez fait attention à la voix, je vous le signale comme ça au passage, hein. Alors soyez indulgents, hein, c'est une de mes toutes premières créations que je vous fais écouter là. Donc moi quand je l'écoute aujourd'hui ça me paraît un peu naïf, mais voilà, c'est pas grave. Et la voix, la première voix qu'on entend, vous avez remarqué, vous pouvez imaginer comment elle a été faite, c'est peut-être un truc que vous avez déjà utilisé, hein, mais c'est pas ça du tout, pardon.
Est-ce que tu nous as fait plutôt par là ?
Ouais, je vous le refais écouter. Écoutez la première voix, qui est ma voix d'ailleurs. Mais elle a un truc un peu particulier. Ouais, c'est assez drôle. C'est un truc que je fais régulièrement, mais j'aime bien ça.
Et tu l'avais fait avec un magnétophone
Non, là j'étais déjà sur informatique, je pense. Non, non, magnétophone à bande, oui, à cette époque-là, oui, magnétophone à bande. Et je l'avais fait en phonétique. Je le signale aussi parce que j'ai vu d'autres gens faire ça, qui en fait enregistrent d'abord le texte à l'endroit, puis l'écoutent à l'envers et l'apprennent à l'envers. Et je trouve ça d'une complexité folle, en fait. C'est super dur à faire, je trouve. Alors qu'en fait, vous écrivez en phonétique, vous mettez à l'envers, et puis ça marche. Et c'est plus simple, quand même. Oui, donc, ça, c'est le système d'écoute au casque classique. Et alors, j'ai découvert, moi, la semaine dernière, j'ai fait pour la première fois l'essai du fameux système binaural. Alors, je parle du vrai binaural avec système qui détecte les mouvements de la tête. Ce qui veut dire que donc vous êtes dans une situation d'écoute où vous avez un casque sur les oreilles, un émetteur sur le casque, un récepteur en face de vous, qui va modifier le son dans vos oreilles en fonction des mouvements de votre tête. Et là, effectivement, on bascule dans un monde où les sons sont devant, sont derrière, sont un peu au-dessus. C'est très, très impressionnant. C'est très impressionnant. Je pense que c'est bien que vous sachiez qu'on va vers ça. Ça va être alors c'est là où je comprends pas l'approche. Moi, j'en ai parlé avec le responsable de la recherche et du développement à France Télévisions, puisque c'est eux qui travaillent beaucoup là-dessus. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est que eux, pour l'instant, quand ils travaillent sur cet écoute au casque, ils sont sur de la simulation de haut-parleurs. C'est-à-dire que ce qui m'a fait écouter, c'est une simulation d'un système octophonique sur casque. C'est-à-dire que le système, tel qu'est conçu la configuration du système, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire une config au casque, et après, ça va simuler cette config au casque. C'est un peu bizarre. C'est une approche un peu bizarre. Donc, ce fameux standard 22, il le modélise, et on pourra écouter au casque comme si on avait 22 enceintes, en fait. C'est ça. La télévision du futur, c'est... j'ai vu, moi, le prototype, donc c'est une image de très, très haute qualité. C'est très impressionnant. Et c'est ce son qu'on écoutera, au fait, au casque. Et probablement sur son iPhone. Ils sont en train de réfléchir à des systèmes sur iPhone. Il semblerait que l'iPhone soit assez puissant pour ça. Parce que ça demande à ce qu'on personnalise l'écoute. C'est pour ça que je rejoins l'importance du... J'ai parlé de l'importance du pavillon. Pour que ce système marche, il faut que chacun fasse un relevé de son pavillon, en fait, des caractéristiques de son pavillon. C'est-à-dire qu'on vous met des micros dans l'oreille, on fait passer des sons dans des enceintes, et les micros font un relevé, en fait, de la façon dont vous percevez, dont vous localisez chacun d'entre vous les sons. Et il faut ce système personnalisé pour que vraiment le son semble venir de devant. Si on ne fait pas ce système personnalisé, moi je l'ai fait en écoutant le modèle d'autres gens, et ça ne marche plus, hein. Le son tout à coup revient à l'intérieur du crâne. Mais en tout cas, voilà, on va vers ça, et c'est assez bluffant. Hein. C'est assez bluffant. Voilà, nous on est en réflexion pour travailler éventuellement là-dessus. Mais à la fois c'est bluffant, à la fois c'est intéressant pour tout un type d'application, notamment l'application avec la vidéo. À la fois, moi je continue de penser que l'écoute au casque traditionnelle, elle est intéressante, encore une fois, parce qu'elle renvoie chacun à sa mémoire et à ses possibles hallucinations. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le fait que le cerveau est capable de générer ces images, c'est ce qui explique que vous êtes capable de rêver, hein. Tout simplement, c'est ce qui se passe quand vous rêvez, hein. C'est votre cerveau qui génère des images. Hein. Et du coup, c'est ce que je trouve intéressant, moi, avec cet écoute au casque, c'est qu'on peut, on peut créer une espèce de confusion, et d'ailleurs, il nous arrive, dans certains concerts sous casque, que les gens s'endorment. Puisqu'on peut, en fait, ils peuvent s'allonger. Hein. Et voilà, et j'aime bien cette idée-là, quoi, que, voilà, qu'on va un peu s'immiscer dans les rêves des gens. Bon, alors après, moi, la rencontre que j'ai faite, qui a été déterminante dans mon parcours, c'est que j'ai rencontré en 89 Christian Zanesi. Hein, je vous ai expliqué que je venais d'une famille pas très cultivée. Et en fait, la musique électroacoustique, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je me rends compte en rencontrant Christian Zanesi en 1989 que depuis 5 ans, je fais de la musique électroacoustique sans le savoir, en fait. Puisque je continue d'utiliser le synthétiseur analogique, j'utilise les magnétophones à bande, j'utilise des sons que je transforme, que je mets à l'endroit, à l'envers. Voilà, je fais l'électroacoustique sans m'en rendre compte. Et donc, je vais travailler un petit peu avec Christian Zanesi. Je vais l'assister sur la diffusion d'une de ses musiques, une musique pour un spectacle. Et je vais mettre un premier pas dans le monde de l'électroacoustique, qui va ensuite me faire rencontrer Pierre-Henri. Alors, est-ce que vous avez déjà assisté à un concert de Pierre-Henri ? Donc, tu as quand même pu constater l'intérêt qu'il y a à avoir tout un tas de haut-parleurs différents, quand même, non ?
Moi, je l'ai vu sur son concert à 80 haut-parleurs, c'était une moyenne d'Arcestin. Ce jour-là, il ne nous a pas convaincus.
Ah ouais ? Ah ouais. Sur le travail dans l'espace, c'était pas convaincant ?
Ce qui me convient beaucoup plus, c'est le travail de Julien Claus, qui était son assistant aussi pendant quelques années, qui sur Optophonie se démerde très bien. Mais c'est vrai que Pierre-Henri, on attendait un peu autre chose de ce concert. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'on était dans une attente de quelque chose.
Mais est-ce que tu as compris le principe, sa façon d'utiliser les haut-parleurs ou pas ?
Je ne sais pas. Je n'ai pas dit si j'ai compris le principe. Tout ce que je sais, c'est qu'on était. Les haut-parleurs étaient derrière nous.
Ah oui, ils étaient tous derrière vous. Derrière vous.
En arc de cercle, lui était devant vous. Et donc, voilà, les sons, naviguer, parler en parleur, enfin, ça peut là. Ça. Et sachant que c'est le moyen d'Arcestin, c'est aussi un lieu qui résonne énormément. En fait, il a donné cette forme à ses haut-parleurs pour épouser
l'espace.
Courbe de la salle.
D'accord.
Parce que c'est un demi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il a voulu peut-être faire un truc grandiose, mais qui nous a pas.
D'accord. Vous avez parlé un peu de la Cousmonium, de l'orchestre de haut-parleurs. C'est quelque chose que vous avez déjà un peu abordé ou pas ?
Ça, tout de
suite, là. Ouais.
Par exemple, moi, je connais bien, parce que
ouais.
Je pense qu'il est là.
Ouais.
Depuis l'inauguration de Palais de Chaillot, le futuriste de l'Olympia.
Ah ouais.
Moi, au bout d'un instant, j'écoute plus la sono, j'écoute la musique.
Ouais.
Je suis beaucoup sensible aux structures musicales.
D'accord.
Que finalement, même si Pierre-Henri a fait le cirque d'hiver, j'étais assistant radio, je l'ai interviewé, enfin, pas moi directement, je te donnais le micro. Il y avait deux paroles, je n'étais pas branché.
Ah oui.
Pour la frime aussi.
Ouais.
Mais dans le palais de Chaillot, il y avait une fête de son. C'est la première fois où je ne suis pas sensible au rapport, mais au son pour lui-même. Mais Pierre-Henri, il magnifie le son pour lui-même. Mmh. Je veux dire, plus que les structures, c'est un démiurge qui affirme le son avec une très forte puissance.
Mmh.
C'est un des rares qui fait ça.
Mmh.
Alors peut-être qu'il a besoin de cette sono pour faire ça.
Alors moi, je vais vous donner mon point de vue là-dessus, sachant que je le donne du point de vue du technicien. Et de celui qui a réglé, en fait, l'ingénieur du son attitré de Pierre-Henri, c'est Étienne Bultinger. Voilà, Étienne Bultinger, c'est lui qui m'a formé, c'est devenu un ami, c'est lui qui sonorise le spectacle La face cachée de la lune, là, autour de Pink Floyd. Et il m'a demandé de le remplacer de temps en temps pour travailler avec Pierre-Henri, que j'ai par ailleurs interprété aussi. Il y a eu quelques concerts que Pierre-Henri ne voulait pas faire parce que c'était trop loin ou parce qu'il n'avait pas envie de les faire, parce que c'était régulier. Il y en avait un au Mexique, il y avait une série de concerts à l'Opéra de Paris. Il n'avait pas envie de faire la série, donc j'ai fait à sa place. Donc je me suis mis un peu à sa place. Et surtout, j'ai réglé son système de haut-parleurs. Et je pense que c'est quand même intéressant que vous sachiez sur quel principe ça repose, qui est assez simple en fait. Mais qui nécessite que ce ne soit pas tous les haut-parleurs. C'est pour ça que j'entends ta comparaison avec ce que fait Julien Claus, mais pour moi, ce que fait Julien Claus se situe à l'opposé de ce que fait Pierre-Henri. C'est deux approches très différentes. J'essaie.
Si ouais. C'est la même chose que Pierre Henry, ce serait dommage.
Non, mais tu peux comparer. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'utilisent pas le même instrument, en fait. Au-delà de l'approche artistique, un système quadriphonique ou un système stéréophonique ou un système octophonique qui repose sur des haut-parleurs qui sont identiques, c'est très différent d'un orchestre de haut-parleurs tel que peut l'imaginer Pierre Henry ou le GRM. Et la différence repose sur le fait que justement ce ne sont pas les mêmes haut-parleurs. Donc le concert auquel tu as assisté, tu as quand même pu constater qu'il y avait des mouvements dans l'espace. On s'affranchit des questions artistiques, hein, juste des sensations de mouvement dans l'espace. Si dans cette pièce-là, je mets une paire de haut-parleurs ici, d'un certain type, et puis une autre paire de haut-parleurs ici, mais qui ne vont pas être du même type, et puis une autre paire là-bas, et puis une autre paire là-bas, et que tous ces haut-parleurs sont différents. Si je règle bien le système, si je cale bien les niveaux, si je passe une bande stéréophonique dans ce système-là, il va se passer ce que tu as pu ressentir, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mouvements dans l'espace. Voilà. Ça, c'est tout l'intérêt, je trouve, de ce système de spatialisation, tel que l'a conçu, à mon sens, Pierre Henry. En tout cas, lui, il l'utilise comme ça. Et je trouve que c'est quand même une des grandes forces de ce qu'il propose. C'est cette idée que le travail que lui a fait sur le son, sur le timbre, ça devient, au moment du concert, ça devient un travail sur l'espace. Et je te garantis que, une fois que tu as réglé l'orchestre de haut-parleurs, tu montes les potards, tu ne touches à rien, et tu as des mouvements, mais dans tous les sens. C'est hyper impressionnant quand tu as fait le réglage et que tu fais les premiers essais, parce que tu as l'impression que tu as un magnétophone multipiste qui est en train de tourner, or c'est un truc stéréo qui est en train de tourner. Et ça repose sur le fait que les haut-parleurs vont pas restituer les sons de la même façon. Il y a des pour des questions de bande passante et puis aussi pour des raisons de réponse impulsionnelle. Il y a certains sons qui vont être favorisés par telle enceinte, alors qu'en même temps, il y a un autre son qui va être favorisé par telle autre enceinte, et voilà. Et ça crée un espace, ça crée des mouvements dans l'espace. Et je trouve que c'est important que vous sachiez ça, que quand vous êtes sur un travail de diffusion, de pas forcément avoir le réflexe d'uniformiser vos systèmes, mais de penser au fait qu'on peut mélanger des haut-parleurs et que ça peut donner des résultats intéressants, qui ne seront pas forcément contrôlés. Mais alors ça, moi, personnellement, plus j'avance et plus je pense qu'il faut accepter de ne pas tout contrôler. Et j'ajouterais, si tu me diras si tu es d'accord, que pour moi, c'est même la base de la musique concrète, de ne pas tout contrôler. Et ça, c'est mon point de vue.
C'est très spécifique de Pierre Henry.
Ouais.
C'est quelqu'un qui affirme très fortement la présence physique du son. Et c'est pas qu'à la diffusion, c'est
oui, au moment de la composition aussi.
Qui fait ça, quoi. Ouais, ouais. Donc il y a une très grande cohérence de pensée entre ce qu'il compose et ce qu'il joue. Cela dit, il n'est pas le seul à avoir, peut-être qu'il est le premier, à avoir, pour résumer rapidement, faire une analyse même de stéréophonie, quoique à Futurity, il y avait 12 magnétophones dans la salle, j'avais. De faire une analyse électronique, soit par les filtres présents sur la console ou par les différences des haut-parleurs qui filtrent. Et il y a une recomposition acoustique qui se fait dans l'espace, qui est très belle parce qu'il y a une mise en scène extraordinaire.
On est d'accord. Ouais. Non, après, premier, pas premier, moi je m'en fous de ces trucs-là. Les premiers, pas premiers.
Non, ça marche.
Mais voilà. Et voilà, moi ce qui me frappe chez Pierre Henry, c'est que ça marche et qu'à mon sens, c'est celui qui a été le plus loin en fait, de ce que moi j'ai entendu évidemment. Il va très très loin. Et il va très très loin aussi parce qu'il est très exigeant au moment de l'installation du système. Il fait des essais. Il fait des essais. Alors oui, alors après, réglons cette question-là. Pierre Henry est un homme très ambivalent, c'est-à-dire qu'il est parfois très impressionnant et à côté de ça, il peut être un escroc total. Alors, pour l'avoir vécu de l'intérieur, voilà, c'est bon, voilà. Donc, effectivement.
Ah, pardon.
Oui, ça peut être très pénible de travailler pour lui. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, voilà, moi je pense que c'est bien de connaître ce travail-là. C'est bien, si vous avez l'occasion, profitez qu'il est encore là, si vous entendez parler d'un de ses concerts. C'est quand même une expérience qui parfois peut être ratée, hein. Ça peut arriver. Mais ah ouais, c'était où?
C'était à Strasbourg.
T'as trouvé ça raté?
Ouais.
Ah ouais.
Moi, j'ai trouvé, j'avais l'impression d'être au musée, en fait. Il m'a marre de chier.
Pourquoi au musée? Ah, mais tu parles du contenu musical, tu parles pas de travail sur l'espace.
Ouais.
Moi, je parle que du travail sur l'espace. Hein.
Bah, le travail sur l'espace, moi, je vais faire mon milieu, et après, tout en haut de la scène, et tout en haut des radins, et... Ah, si, travail sur l'espace, si, si.
Je parle que de la première partie, je suis parti à l'entracte. Je parle que de la première partie. Parce que après, la messe pour autant présent, diffusée sur demande. Ah ben, si tu veux, parlons-en un petit peu alors.
Parle...
Oui, on est d'accord. Moi, je ne parle que de la première partie.
Je me suis même un peu endormi. Mais alors, la seconde.
Mais alors, j'en profite pour expliquer pourquoi, de mon point de vue, la seconde n'était pas bien et pourquoi je n'ai même pas voulu y assister. Si tu veux, la première partie, tu as entendu une pièce. C'était à Musica à Strasbourg, c'était dans une salle de la périphérie de Strasbourg, avec une installation assez belle. Hein. Il y avait, je ne sais pas combien il y avait de haut-parleurs, mais l'installation était quand même assez impressionnante. Et moi, j'ai trouvé le travail dans l'espace assez impressionnant. Il ne faut quand même pas oublier que ce qui tournait, c'était une bande stéréo. Hein. Je le reprécise à chaque fois parce qu'on a vite fait de l'oublier, quoi. On a vite fait de l'oublier. T'as vraiment l'impression que t'as 48 pistes qui tournent et en fait c'est juste une bande stéréo qui tourne. Mais alors pourquoi ça marche pas avec la messe pour le temps présent? Tout simplement parce que c'est une des seules pièces de Pierre-Henri qui a pas été conçue pour être diffusée sur Acousmonium en fait. Pas du tout, quoi. Pas du tout. C'est une pièce qui est faite pour accompagner un ballet et donc.
Moi, c'est ça qui m'a un peu dégoûté en fait, parce que la première partie, effectivement, c'est vrai que je m'en souviens, c'était assez bien. Et j'ai plein d'amis qui sont partis à l'entracte. Et moi, je suis restée et j'avais
très Mais tu sais le.
C'est vraiment déprimant de voir ça,
Ouais.
C'est hyper déprimant. En plus, il y avait le film au milieu.
Oui, qui est assez insupportable. Enfin,
voilà.
Ouais.
Mais oui, la première partie était.
Bah, c'est ça, il fallait partir.
Ouais.
Pardon, vas-y. Alors, comment ça se passe concrètement? La première chose à faire, c'est tout simplement uniformiser les niveaux, tout simplement, parce que c'est des haut-parleurs très différents. Donc, ça paraît rien, mais quand tu as 80 HP, c'est super long à faire, quoi. Donc, tu diffuses une bande. Nous, ce qu'on diffuse avec Étienne, c'est l'Apocalypse de Jean, de Pierre-Henri, où tu as une voix. Tu as une voix qui est enregistrée avec un niveau qui est quand même très régulier. Et moi, je vous incite d'ailleurs à plutôt utiliser la voix quand vous réglez vos systèmes. Je trouve que c'est un des éléments les plus... Si vous avez un bel enregistrement de voix, vous avez un spectre qui est assez parlant, vous avez des transitoires qui sont assez intéressantes à utiliser. Je trouve que la voix est un bon système pour régler. Et donc déjà, tu règles les niveaux. Et après, une fois que tu as réglé les niveaux, tu regardes les problèmes de phase, en fait. Ça, vous avez dû en entendre parler, des questions de phase. Tu vérifies que quand tu mélanges les systèmes, tu ne crées pas des distorsions trop fortes de la phase. Et ça, la seule solution, quand tu constates qu'il y en a, c'est de bouger les enceintes. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Et éventuellement, c'est quelque chose qu'on commence à faire maintenant quand on a des systèmes numériques. Tu peux compenser certains problèmes de position d'enceinte en ajoutant des délais. Ce que lui ne fait pas à l'origine. Hein, puisque en analogique, mettre des délais partout, c'était un peu infernal. Hein. Mais en numérique, on peut le faire, donc ça arrive qu'on le fasse, qu'on retarde un petit peu certaines enceintes par rapport aux autres, pour que les sons puissent mieux se mélanger, hein, pour rattraper des problèmes de phase. Voilà. C'est ça, hein, le réglage. Et c'est tout. Pas d'égalisation. Jamais. Jamais, puisqu'il considère que son enceinte est un interprète. Donc voilà, faut respecter le son de l'enceinte.
Et toi, dans la manière dont tu imagines ta diffusion dans ta spectacle vivant, par exemple, c'est toujours avec des haut-parleurs de différents types?
Ouais, toujours, ouais. Toujours. Ouais, moi je mélange. Je mélange en fonction du niveau de ce qui va être diffusé avec le haut-parleur, en fonction de la salle. Et même, je dirais même que sur certains spectacles, j'accepte qu'on me fournisse le système et que la qualité ou que le type de haut-parleur m'échappe un petit peu et je fais avec. Voilà, j'accepte de faire avec. C'est-à-dire que c'est un peu comme un pianiste à qui on confie un piano, ben il accepte. Même s'il n'est pas accordé pile poil comme il veut.
Tu vas faire en sorte d'avoir plusieurs haut-parleurs sans forcément définir lesquels.
Voilà, c'est ça. Ça peut aller jusque là. Mais à partir du moment où il y a un mélange de haut-parleurs, j'arrive à faire quelque chose avec. Quand je ne viens pas avec mes propres haut-parleurs, ce qui est quand même ça le plus souvent, je dois bien le reconnaître. Mais qui ne sont pas des haut-parleurs exceptionnels, hein. C'est juste que j'ai plusieurs types de haut-parleurs. Je n'ai pas un acousmonium, hein. je ne suis pas super équipé, mais j'ai quand même quelques haut-parleurs. Je vous ai un tout petit peu parlé du Super Audio CD tout à l'heure, et je vous ai dit que moi je continue à utiliser le format DSD, j'ai acheté une station, parce qu'il y avait une chose que j'aimais bien explorer à l'époque de l'analogique, c'était le principe du ralentissement. Voilà, vous savez, quand on ralentit un son sur une bande, on va vers le grave. Mais le problème, c'est que l'analogique ne permet pas d'enregistrer à des très très hautes fréquences. On ne peut pas aller au-delà de 20 000 Hz. En tout cas, sur le matériel auquel moi j'avais accès, je ne pouvais pas. Et puis, quand vous travaillez sur des vitesses très lentes, apparaît un petit peu de pleurage sur le magnétophone à bande. Hein. Si vraiment vous allez très très loin dans le ralentissement, voilà, le son il devient un petit peu moins stable. Donc je me suis précipité sur les ralentissements quand les systèmes numériques sont arrivés, mais le problème c'est que quand vous ralentissez avec des fréquences d'échantillonnage classiques, 44, 48, ça devient vite très moche, hein, puisque vous commencez à entendre les échantillons, quoi. Enfin, dit grossièrement, c'est ça qui se passe, quoi. Ben, l'avantage du DSD et du DXD, c'est que comme ça échantillonne à une très très haute fréquence, on s'affranchit de ça. Et alors là, alors malheureusement, je ne peux pas vous le faire écouter là, parce qu'il faudrait que j'aie le système. Mais là, je vous garantis qu'on pénètre dans un nouveau monde, quoi. Vraiment, on pénètre dans un nouveau monde. Et moi, j'aime ça. Alors, ce que je peux vous faire écouter, c'est une première approche que j'avais eue, juste pour vous ayez une idée de la couleur du son, qui peut être intéressante, mais c'est pas, voilà, c'est pas, vous n'allez pas entendre le son des SD. Mais juste que vous ayez une idée de ce que ça peut donner artistiquement quand on travaille sur le ralentissement. Donc tous les sons sont issus d'un clavecin et d'un piano. Thank you. paradoxe, c'est qu'on écoute avec la sortie casque du Macintosh. Là, je suis en 44.1. Mais malgré tout, la matière n'est pas la même. Pourquoi ? Parce que ce système qui est échantillonné à très 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 haute fréquence permet d'avoir des impulsions qu'on n'a pas avec les systèmes classiques. Et que ces impulsions, au moment où je fais le ralentissement, je travaille avec ma station à moi. Donc au moment où je fais le ralentissement, la matière sonore, elle a une existence que vous ne pouvez pas avoir avec d'autres systèmes. Et puis après, je la copie sur le Mac, c'est une sortie pourrie. Ça serait encore mieux si j'avais mon système DSD. Mais malgré tout, vous entendez une matière qui est une matière inhabituelle qu'on peut avoir que avec ce type d'appareil-là. Et encore, il n'y a pas de sub. Parce qu'évidemment... Alors ça, c'est ce qui se passe quand on travaille avec des sons acoustiques. Alors c'était mes débuts de l'exploration de ce travail sur le ralentissement. Depuis, j'ai fait deux autres choses. Une autre chose que je ne peux pas vous faire écouter parce que c'est en cours et qui me pose des soucis techniques, c'est que j'essaye de travailler sur des sons acoustiques, mais avec des micros qui montent à très haute fréquence. Puisqu'évidemment, quand vous ralentissez, vous faites descendre toute votre bande passante. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'aller capter des sons qu'habituellement on n'entend pas. Voilà, et de voir ce qui apparaît. Donc ça, pour l'instant, je n'ai pas réussi. Voilà. Pas réussi à avoir les bons micros. Donc j'ai fait pour l'instant des essais avec des micros normaux et je vois déjà qu'il y a des choses qui apparaissent, des choses qu'on n'entend pas. J'ai demandé à une musicienne de faire des sons frottés dans le piano et il y a des fréquences qui montent très très haut qu'on n'entend quasiment pas à l'oreille nue. Et quand on les ralentit, il y a tout à coup une matière qui arrive qui est assez, assez étonnante. Par contre, ce que je peux vous faire écouter, c'est un travail.
Quels étaient les micros avec un instrument ?
Là, c'est des DPA 4011. C'est anciennement BEK. Hein. C'est la nouvelle dénomination de BEK. C'est des très très bons micros. Hein. C'est des micros qui ont une réponse impulsionnelle. J'ai fait beaucoup d'enregistrements de musique classique. Le jour où j'ai découvert les BEK et DPA, j'ai rangé des Shops. Voilà. C'est des micros qui, notamment dans le grave, une capacité de prise de son qui est... La marque DPA, retenez-la, parce que c'est accessible en plus maintenant, financièrement. Et c'est, à mon avis, c'est les meilleurs micros au monde, de ce que moi j'ai pu tester. Alors il paraît qu'il y en a des encore mieux, mais je n'ai pas encore pu y accéder. Mais en tout cas, dans ce qui est accessible, y compris les micro-cravates. Hein. Pensez aux micro-cravates. Hein. Pardon, ça part un peu dans tous les sens, mais là, dans le dernier spectacle qu'on a monté, qui est un spectacle autour de Jean Jaurès, dont je vous parlerai un petit peu si vous voulez, on fait toutes les prises de son que avec des micro-cravates, ce qui fait qu'on a un plateau nu, il y a une batterie, il y a un piano. Hein. Et je peux vous dire par exemple que la batterie, jusqu'à maintenant on a toujours travaillé avec 7-8 micros sur la batterie, là on a pris deux Omni DPA, plus un micro sur la grosse caisse, et on a un son de batterie qui est juste magnifique. Quoi. Et sur le piano, il y a un micro. Pourquoi pas deux ? Parce que sinon il y a des problèmes de phase dans tous les sens. Ce que je peux vous faire écouter, c'est un autre travail que j'ai fait sur le ralentissement, mais là avec un synthétiseur analogique qui s'appelle le Synthi AKS. Et là, c'est vraiment intéressant parce que le Synthi AKS, il monte en fréquence plus haut que 20 000 Hz. Donc, j'ai fait des enregistrements de séquences faites sur le Synthi AKS et j'ai tout ralenti, alors je crois que c'est 8 fois. Là. Et du coup, il y a des matières sonores qui apparaissent. Voilà. Ça devient un nouveau champ d'exploration du son. Vous voyez qu'il y a encore des sons très aigus. Là, il y a un son ajouté qui est un son de pluie. Mais tous les autres sons, c'est du synthétiseur analogique ralenti. Ça, c'est pareil, c'était destiné à une diffusion au cours d'un spectacle vivant, hein, donc sur un système avec plusieurs enceintes. De toute façon, j'ai jamais rien fait de ma vie qui soit écouté en stéréo, sauf le petit truc à écouter sous casque que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Voilà. Le reste, c'est que des choses qui sont normalement diffusées en condition de spectacle. Ouais, voilà. Donc sur les outils du son, je pense que c'est bien que vous sachiez que ça existe, que ce format-là existe, qu'il y a des stations de travail qui existent, qui vont continuer à fonctionner à ce format-là. Le format va être maintenu. C'est-à-dire que le super audio CD grand public, lui, non, mais ce format-là numérique existe et qui permet d'accéder à des à de la création sonore qu'à mon sens on ne peut pas obtenir avec d'autres stations de travail. La station de travail la plus opérationnelle sur ce système là c'est Pyramix, pour ceux qui se posent la question, et c'est notamment le système, ils ont développé une interface qui permet de le gérer qui s'appelle l'interface Horus. Voilà. Pour ceux qui aiment vraiment travailler sur ce genre, soit sur le ralentissement, soit sur la qualité audio, c'est à mon sens le meilleur système au monde à l'heure actuelle. Et il est cher, mais il est accessible.
En stockage,
c'est... Ah oui, en stockage, c'est méchant. Il ouais. Faut des gros disques durs. Ou il faut pas travailler avec pas trop de pistes. Quoi. Ouais. Ce qui est mon cas, moi je travaille pas avec énormément de pistes. Voilà, juste vous signaler, alors j'ai un peu quitté un peu l'ordre chronologique, mais il y a eu une époque, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait ce qui a vraiment fait la bascule, la première arrivée du numérique, en tout cas pour moi, dans mon parcours à moi, ça a été l'arrivée des échantillonneurs, mais les premiers échantillonneurs, hein, les échantillonneurs des années 80, et où à l'époque, ces échantillonneurs, on avait... Le temps maximum d'enregistrement qu'on avait, c'était 7 secondes 2, je me souviens, par palier de 0,4 secondes. Et on avait droit à 4 fois 7 secondes 2, en tout cas sur l'échantillonneur Roland que j'avais moi. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se rendre compte à quel point ça a influencé notre façon de composer, parce que voilà, ça limitait les possibilités de travail du son. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à vraiment travailler sur les boucles en aller-retour, sur les transpositions dans tous les sens, sur chercher des sons en fait qui marchaient particulièrement bien en boucle, parce que des fragments de sons aussi courts, ça ne permet pas d'aller très très loin. Quoi. Mais on est passé par cette époque-là où on était à un paquet à travailler sur l'échantillonneur. Mais je trouve que ça a un peu conditionné la musique de cette époque-là. Je ne sais pas si vous connaissez, alors, tous les noms m'échappent là. Ce compositeur qui a fait un tube, alors peut-être que vous ne l'avez pas entendu ce tube-là, avec des sons de bébé, des sons de voix de bébé qui a été très réutilisé dans la pub. Parce que pour moi, c'est très représentatif de cette époque-là. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour la danse. Bon, ça me reviendra peut-être. Mais en tout cas, voilà, je trouve que si on écoute les productions du début des années 80, l'échantillonneur a vraiment été un élément... a été un moment où ça a un peu contraint le mode de composition. Voilà. Après, maintenant, aujourd'hui, on arrive à des systèmes numériques que j'imagine vous utilisez tous. Alors qui, pour le coup, moi, m'ont échappé totalement. Étant resté un technicien du son et continuant à utiliser des stations de travail qui sont plutôt dédiées à la très haute qualité audio, comme le Pyramix, je suis passé à côté des Live, Max et compagnie. Donc ça, malheureusement, je ne peux pas trop vous en parler. Mais l'autre chose dont... Il y a deux autres choses dont je voulais vous parler... par rapport à ce que moi j'utilise comme mode de production du son. La première chose, c'est l'Arsen. Je vous ai raconté mon premier rapport au l'Arsen quand j'étais tout petit avec mon papa. Et après, j'ai vécu une autre expérience avec Sylvain Cassap. On travaillait un duo et on était en studio. Et puis tout à coup, j'ai entendu un l'Arsen, mais un l'Arsen fluctuant. Un l'Arsen, en général, ça part sur une fréquence stable, et puis ça reste, et puis ça monte en puissance éventuellement, mais en tout cas c'est stable. Et ce jour-là, j'ai entendu un l'Arsen fluctuant, un l'Arsen qui oscillait, voilà. Et j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait, et en fait ce qui se passait, c'est que j'avais un l'Arsen en 8, c'est-à-dire qu'il y avait deux l'Arsen, mais qui était un espèce de l'Arsen en 8, c'est-à-dire qu'il y avait un micro qui allait vers une enceinte, cette enceinte envoyait le son vers un autre micro, qui allait vers l'autre enceinte, qui allait vers le premier micro. Voilà. Et ça créait cette fluctuation. Et du coup, ça m'a donné envie d'explorer ça, en fait. Le l'Arsen avec plusieurs micros. Mon premier réflexe, ça a été de faire un système avec des micros mobiles. Après, j'ai découvert que ça avait été fait avant moi, évidemment. Voilà. Comme toujours, mon manque de culture. J'ai découvert c'est qui a fait cette pièce avec le pendulum, voilà Reich. Sauf que lui il avait pas ce système en 8, voilà, lui c'était des l'Arsen francs. Donc moi j'ai fait ce système avec le l'Arsen en 8 avec des micros en mouvement, et donc on avait comme ça des l'Arsen assez chantants en fait. Et en plus, ce qui était assez agréable, c'était de voir ce mouvement, d'avoir une espèce de corrélation entre les fluctuations des l'Arsen et puis les mouvements des micros. Et donc on a commencé à faire ça sur scène. Et puis un jour je me suis dit, mais ça serait intéressant de vraiment pouvoir contrôler ces mouvements, de pouvoir vraiment être dans un rapport de... Et j'ai eu cette idée toute conne de mettre des micros sur un gant, en fait, de mettre trois micros sur un gant. Et donc de commencer à travailler sur le l'Arsen avec des gants devant des haut-parleurs. Et on peut maîtriser les l'Arsen. Gros intérêt, c'est qu'on peut y arriver. Et donc le l'Arsen devient un mode de production du son, un mode de... moi, vous savez, j'ai beaucoup de mal, pardon, s'il y en a parmi vous qui font ça, mais, moi j'ai beaucoup de mal avec les systèmes de contrôle aujourd'hui. On entend beaucoup parler de nouveaux instruments qui, pour moi, ne sont pas des instruments de musique, ce sont des interfaces de contrôle de sons qui sont préenregistrés dans des machines. Ce que j'aime bien avec le gant l'Arsen, c'est que c'est un instrument. C'est que c'est un vrai instrument, puisque la production se fait vraiment en direct. Et en plus, c'est un instrument qui est très instable, ce que j'aime bien aussi, puisqu'il est très dépendant de la pièce dans laquelle on joue. En fait. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'explore moi depuis une dizaine d'années, ce système. J'essaye de le fouiller, de le rendre de plus en plus contrôlable malgré tout. Mais sachez que voilà, c'est une matière qui a peut-être pas encore tout dit. Ça a été très utilisé, hein, les l'Arsen, hein, par Pierre-Henri, enfin par tout le monde, par tous les gens de l'électroacoustique, mais très peu en live, très peu dans la situation du concert. Voilà, j'avais envie juste de vous dire que ça peut se faire en concert à partir du moment où vous utilisez plusieurs micros. Un seul micro, le contrôle du l'Arsen, il est très compliqué. Dès que vous mélangez au moins trois micros, vous avez un vrai contrôle, et vous avez vraiment la sensation de sculpter le son dans l'espace, et en plus ça amène un rapport visuel qui est vraiment intéressant. Et l'autre chose qui m'a beaucoup... Pardon. Alors, je regarde si j'ai des enregistrements, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais, j'en ai un, visiblement. Je me souviens plus. On va voir. J'ai peur. Au début, ça doit pas être... Ouais, ça, c'est pas du Larsen. Ça, c'est une répétition, hein. Donc il n'y a pas de montage, il n'y a pas de mixage, c'est vraiment c'est de la production en direct. Hein. Hommage à Laurent Daillot où je combine les deux en fait. J'ai un thérémine plus les gants Larsen en fait. L'enceinte est horizontale et j'ai le thérémine à côté.
Et
c'était clarinette et traitement. Voilà, vous en avez assez eu, je pense. Surtout que c'est une répétition, hein. Je cherche, hein. Donc c'est pas une production. Encore une fois, je n'enregistre jamais mes concerts. Désolé, parce que j'ai pas. Les seuls trucs que j'ai finalement à vous faire écouter, c'est des créations que j'ai faites pour des spectacles pour des autres, en fait. Parce que ce que je fais moi, il faut venir en concert. Il n'y a pas d'autre solution. Et ce travail sur le Larsen, ce qui est intéressant, c'est de combiner. Là, on est sur du Larsen analogique, purement analogique. Et évidemment, quand on commence à coupler ça avec des systèmes numériques, on peut commencer à ajouter des délais. De toute façon, il y a un délai. Voilà. de fait. Et après, on peut augmenter les délais, on peut commencer à rajouter des traitements, des pitches. Et alors là, là ça va très loin. Hein. Là, on peut vraiment avoir un système qui sculpte le son et qui produit des sons qui sont assez proches des sons d'orgue. Hein. Ça peut aller très très loin. On peut vraiment avoir... Moi, je trouve que c'est un instrument qui est assez intéressant dans le rapport au concert, à la prestation en direct. Et encore une fois, l'autre intérêt qu'il a, c'est que on peut imaginer dans une salle un dispositif avec plusieurs haut-parleurs, et le musicien va aller d'un haut-parleur à l'autre, et évidemment ça va changer complètement si c'est pas les mêmes haut-parleurs, si on n'est pas uniforme, et le rapport à la scène va changer, et le Larsen est très dépendant de la salle dans laquelle on joue. Donc c'est, encore une fois, ça fait un instrument qui n'est pas stable, mais justement qu'on redécouvre à chaque fois. Alors peut-être je vais préciser ma pensée là-dessus. Je ne sais pas ce que vous savez, vous, de la naissance de la musique concrète, et surtout de sa définition. Alors peut-être qu'on va s'engueuler, là. Parce que souvent ça donne ça quand même. Qu'est-ce que c'est pour vous la musique concrète? Comment on vous l'a raconté? Comment on vous en a parlé? Parce que j'ai une vision très personnelle, très influencée par Pierre-Henri, évidemment, de la musique concrète. Et on vous en a parlé quand même un peu, ou pas? Vous voyez ce que c'est, ouais, quand même. J'imagine. Sinon, il y a un problème.
Ça n'a pas été une thématique.
Non, ça n'a pas vraiment été une thématique. Ouais. Ouais. Mais moi, en tout cas, tel que moi je l'ai compris du tout début, la musique concrète, je parle vraiment de la musique concrète et pas de ce qui va suivre, à mon sens, qui est la musique électroacoustique. Et je parle même pas de la théorie que va en faire après Pierre Schaeffer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a eu avant. Parce que d'une certaine manière, je trouve que la théorie qu'en a fait Pierre Schaeffer, de mon point de vue, ça a un peu abîmé le vrai geste musical qu'il y avait au départ et la vraie révolution, à mon sens, musicale qu'il y avait au départ. Parce que pour moi, le terme de musique concrète, il s'oppose à musique abstraite. Il s'oppose à l'idée d'une musique qu'on conçoit dans sa tête et qu'après on va confier à des instrumentistes ou qu'on va soi-même interpréter. Mais c'est une musique qui est d'abord faite dans l'abstraction. Alors que la musique concrète, on est dans l'action concrète, dans la manipulation concrète du son. Pour moi, c'est de là que ça vient, vraiment. Ça veut dire qu'effectivement, c'est d'abord une musique qui est née avec des supports des disques souples, et puis après d'autres machines, des magnétos, d'autres machines qui ont été inventées, les synthétiseurs, etc. Mais on est d'abord dans un rapport concret au son. Et pour moi, il y a cette idée que les premières manipulations qu'ils vont faire avec les disques souples, parce qu'au départ, Pierre Schaeffer et Pierre-Henri qui l'assistent, c'est ça, on est justement dans une absence de maîtrise. C'est-à-dire qu'ils sont en train de découvrir des nouveaux sons, des sons qu'on n'a jamais entendus. Ils maîtrisent pas exactement ce qui va sortir de leur manipulation. Alors évidemment, ils sont dans une espèce d'interaction, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, aux origines de la musique concrète, il y a la notion de l'improvisation. Et pour moi, c'est important. Pour moi, c'est un retour en force, ça aurait pu en tout cas, être un retour en force du rapport à l'improvisation en musique, qui s'est quand même, dans nos cultures, beaucoup perdu.
De l'expérimentation,
quoi. Oui, de l'expérimentation et de l'improvisation, oui. Oui, oui. Mais aussi de l'improvisation, du fait de pas être dans l'anticipation de ce qui va se passer. Pour moi, c'est ça, l'improvisation. Enfin, ça peut être ça, en tout cas.
De la génération, plutôt, sonore.
Ouais.
La définition qu'il en donne, c'est celle que donnait Schaeffer lui-même.
Oui, au tout début. Ouais. Au tout début. Non, mais j'aime bien parler de ça et j'aime bien préciser ça parce que après il y a cette idée, parce qu'après Pierre Schaeffer, je trouve, a brouillé les pistes en parlant d'objets sonores. Et du coup, il y a, pour beaucoup de gens, il y a cette idée que la musique concrète, c'est ça, c'est une juxtaposition d'objets sonores. Et pour moi, à l'origine, c'était un peu plus complexe que ça. Non, tu n'es pas d'accord avec ça? Hein, mais moi j'aime bien, hein, qu'on soit pas d'accord avec moi.
Non, on va pas s'impliquer.
J'aime bien avancer. Hein.
Non, mais c'est, j'ai pas en revanche à Schaeffer d'abaisser la même chose, je ne vais pas polluer le truc avec ça. Je veux dire, on prête à Schaeffer beaucoup d'attention qu'on n'a jamais eu.
Ah d'accord.
En particulier avec le traité des objets musicaux.
D'accord, bah, ça serait bien qu'on en parle alors.
Il a théorisé pas forcément sur la musique même, mais sur la perception, sur l'écoute, sur des choses comme ça. ça, qui veulent être une recherche sur l'ensemble des musiques et pas spécifiquement sur la musique.
D'accord.
D'accord. Voilà, cela dit, il y a très peu de gens qui aiment la musique de Schaeffer, on s'emmerde très souvent. Encore pire que Pierre.
Bon, d'accord. Comme ça, les choses sont claires. Non, mais je suis absolument pas un fan de Pierre-Henri. De toute façon, je suis un fan de personne. Et surtout pas de Pierre-Henri, qui a fait quelques pièces, à mon sens, qui valent vraiment d'être écoutées, et puis qui a fait beaucoup de choses qui sont pas si intéressantes que ça, et qui, par ailleurs, a fait des grosses escroqueries aussi, on peut le dire. Disons-le. Non, il est allé plus loin que le commercial. Il a fait une immense escroquerie à laquelle j'ai participé sans le savoir. Je lui en veux énormément de ça. Oui, il a fait un morceau qui s'appelle Hypermix. Alors, vous n'entendrez jamais parler, parce qu'évidemment, il a tout effacé. Enfin, moi, j'en ai encore une trace. Il a fait un morceau qui s'appelait Hypermix et que je trouvais très étonnant, que j'ai diffusé en concert à Mexico, et que j'ai trouvé très étonnant. Je trouvais vraiment rythmiquement très fort et tout. Jusqu'au jour où j'ai écouté Desk, Drugs, Drums and Rock'n'Roll de Propellerheads. Et en fait, la pièce Hypermix de Pierre-Henri, c'était l'album des Propellerheads avec quelques filtrages. Voilà. Donc il est capable de faire quand même ce genre de choses. Hein. Mais en fait, je l'ai découvert à Mexico, parce que le jour où j'ai fait mes premiers essais sonores, il y a un spectateur qui me voit et qui m'a dit « Super les Propellerheads !» Et bon, enfin voilà, il a eu un procès, il a arrêté. Moi, j'ai terminé ce que j'avais prévu de vous dire, mais on peut continuer en échangeant sur des sujets que j'ai abordés. Et je regarde si j'ai autre chose à vous faire écouter quand même. Oui, je veux bien vous faire écouter ça. Travaille sur une pièce baroque qui s'appelle la Lettera Amorosa. Et je vous le fais écouter parce que ça. Alors c'est le même enregistrement que la pièce que je. Enfin, c'était le même jour et les mêmes techniques d'enregistrement que la pièce de tout à l'heure. Et je vous la fais écouter parce que c'est un travail qui est fait avec, encore une fois, cet outil numérique d'aujourd'hui qui est à la pointe, mais où en fait je n'utilise que des vieilles techniques de l'électroacoustique, hein, parce qu'en fait la composition repose uniquement sur des sons mis à l'envers et des réverbes qui prolongent le son, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Mais fait avec les sons d'aujourd'hui, avec le système d'aujourd'hui. Et encore une fois, une qualité de timbre et d'enregistrement qu'on n'avait pas. En fait, moi je suis très sensible à ça, ça c'est mon côté technicien du son, parce que les premières fois que j'ai fait des enregistrements avec ce système là, pour du Super Audio CD, j'ai découvert qu'il fallait que je change mes méthodes de travail. C'est-à-dire que si j'utilisais mes méthodes de travail habituelles, j'avais plein de défauts qui apparaissaient. C'est un système qui enregistre certaines parties du son qu'habituellement on n'enregistre pas, que ce soit en analogique ou en numérique, même à 96 ou 192. Hein. Là, on est vraiment au-delà. Et tout à coup, apparaissent des défauts que d'habitude, on n'entend pas, comme par exemple le son qui passe par les pieds de micro. Là, ça devient... Mais vous savez, quand vous êtes dans un studio, les pieds ils sont posés au sol, il y a des vibrations. C'est quelque chose auquel on est attentif d'une manière générale, mais dès qu'on travaille avec le Super Audio CD, ça devient un enfer. Ça devient vraiment un enfer. Donc il y a tout un tas de... C'est très long, en fait, d'enregistrer un Super Audio CD, parce qu'il faut...
Ouais,
c'est ça, ouais, c'est que le son acoustique fait vibrer le plancher, cette vibration elle passe dans le pied de micro et ça arrive jusqu'au micro, même s'il a une suspension. Et c'est habituellement des sons, ce qu'on appelle les sons transitoires, des sons qui sont très très courts, qui habituellement ne sont pas enregistrés. Moi j'ai fait des comparaisons sur écran avec ce système là. On a vraiment sur des sons impulsionnels, on a une partie du son qui apparaît. Sur d'autres enregistrements, n'existe pas. Il y a des transitoires qui sont présents qui, sur les autres enregistrements, n'apparaissent pas. Donc, c'est intéressant pour un technicien son, c'est intéressant pour quelqu'un qui cherche la qualité audio, et par ailleurs, c'est intéressant parce que ces sons-là, quand on va les transformer, quand on va les traiter, voilà, ils amènent une matière qu'on n'a pas habituellement. Ce qui m'amène à vous faire aussi une réflexion qui m'est apparue en lisant un travail de les mémoires de quelqu'un qui parlait du travail de Yann Parentoen. Vous avez entendu parler de Yann Parentoen. Yann Parentoen qui raconte qu'un jour il a fait un mixage au vu-mètre, c'est-à-dire qu'il a coupé les enceintes, il savait ce qu'il avait mixé, hein. Il a coupé les enceintes et il a mixé au vu-mètre, il a fait son travail de mixage au vu-mètre, il a écouté le résultat à la fin. Et voilà, je trouvais ça assez troublant comme façon de travailler, comme une approche visuelle du sonore. Et ça m'a fait réfléchir, moi, à mes habitudes de travail, et je me suis rendu compte d'une chose à laquelle il faut être vigilant, je trouve, avec les technologies que vous utilisez aujourd'hui, et qu'on n'avait pas, encore une fois, hein, je passe pour le vieux con, hein, mais avant, quand on faisait du mixage, on avait des magnétophones Revox qui avaient des bandes, et on mélangeait le son de ces magnétophones Revox. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas le son. On voyait des machines en train de tourner, mais on ne voyait pas le son. On se faisait un plan de mixage, et puis voilà, on envoyait nos Revox, et puis on mélangeait, on travaillait à l'oreille, uniquement. Or, aujourd'hui, je le vois bien, moi, quand je travaille sur l'ordinateur, on voit le son qu'on est en train de mixer, et surtout, on le voit à l'avance. On voit le son qui arrive. Et je vous garantis que ça influence, mais alors, complètement votre écoute. Donc, je vous invite, pour ceux qui travaillent comme ça, sur ordinateur, qui font du mixage, à de temps en temps éteindre votre écran. Et à écouter sans regarder le son. Parce que vraiment, vous allez vous rendre compte que c'est voilà, ça influence l'écoute terriblement. De toute façon, vous savez que... Non, vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Que les sens ne sont... Enfin, si, vous le savez peut-être. Les sens ne sont pas traités séparément, hein, par le cerveau. Hein. Le cerveau traite les données sensorielles en comparaison des éléments. Ça a été le sujet, en fait, de mon travail de recherche, c'était ça. Hein, la liaison entre la perception visuelle et la perception auditive. Et réellement, la façon dont on perçoit les sons influence la façon dont on regarde, et à l'inverse, le regard influence la perception des sons. Si vous m'écoutez parler sans me regarder, vous n'allez pas entendre la même chose que si vous me regardez. Voilà. Parce que mes mains vont vous donner des indications, que mes lèvres vous donnent des indications, que mes yeux vous donnent des indications. Et tout ça, ça influence grandement l'écoute. Donc je trouve qu'il faut qu'on se méfie parce qu'on a des interfaces qui sont très très visuelles, qui sont, ce qui est très pratique évidemment. Mais je vous invite à être vigilant ça sur les ultimes étapes de votre travail, à faire attention à de temps en temps être que dans l'écoute. Ou en tout cas être dans la situation dans laquelle seront les gens quand ils écouteront, donc pas forcément avec des indications visuelles sur ce qui se passe, sur ce qui va arriver. Sur... C'est surtout l'anticipation en fait qui conditionne énormément l'écoute. Voilà.
Je n'ai pas compris le sens de l'expérience de Père Antoine. Pourquoi il a...
Je ne sais pas. C'était une expérience qu'il avait, qu'il a testée. Je ne sais pas. Eh bien, il disait que pour lui, le vu-mètre était un élément vraiment très très important dans le travail du son. Mais je pense que ce qui mettait en avant, c'est le travail sur la dynamique du son, ce qui est vrai. C'est vrai que c'est un élément, moi je trouve aussi, en tant que technicien son, je trouve que c'est un élément très très important. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est souvent massacré hein, dans le travail de production musicale. Hein, le travail sur la dynamique du son, c'est un peu une cata hein, depuis le numérique. Mais vous savez pourquoi on a été obligé en fait hein. Le standard du CD, il est tellement mauvais dans les faibles niveaux que tous les ingénieurs du son, on a été obligés de compresser le signal. Vous voyez ce que c'est la compression du signal hein. On a été obligés au début du numérique. Hein. Si on ne compressait pas, c'était une catastrophe. Donc on a tous les techniciens, on s'est mis à compresser le signal et on a gardé cette habitude-là, je ne sais pas pourquoi. Alors ça revient un peu, hein, y a des gens qui sont vigilants là-dessus, hein, mais y a quand même une vraie, on a quand même une vraie tendance à travailler sur des plages dynamiques qui sont très très faibles. Ce qui est, à mon sens, un petit peu dommage, en tout cas, pour certaines musiques. Le compresseur, c'est un outil de travail du son qui est un des plus compliqués à utiliser, mais c'est un outil important. Hein. Et dans la création, et dans le mixage final, c'est un outil important.
Tu as dit que tu n'utilises pas de notes ni de mélodie. Et en fait, tout ce que tu nous avais fait écouter, c'est hyper magnifique.
Ben oui, parce que. Non, c'est ce que je vous ai fait écouter, en fait. C'est ce que je vous ai fait écouter, encore une fois, ce que je vous ai fait écouter. Là, c'est deux pièces où il y a du clavecin. C'est une commande d'une chorégraphe qui s'appelle Sabine Novel, qui voulait travailler avec le clavecin. C'est pas un choix de ma part, en fait. Mais, alors, je ne suis pas un anti-mélodique ou un anti-rythmique. Je viens de la batterie, hein, donc je suis un anti-rien, mais justement, je suis un anti-rien. Donc, je considère que la musique, c'est aussi un travail sur les timbres, sur les sons. Et réellement, ce que je fais moi, tout seul, il n'y a pas de mélodie. Il n'y en a pas. Je suis incapable. Je ne sais pas le faire. Donc, voilà, les gants Larsen, il n'y en avait pas. Ça, c'est très représentatif de ce que je fais. Quand j'utilise... Ah bah alors si, après, tu peux considérer qu'il y a une mélodie. À partir du moment où il y a des fluctuations en fréquence. Mais enfin, c'est quand même pas très harmonique au sens classique du terme.
C'est pas au sens classique du terme. Mais il y a quand même des choses qui vont résonner ensemble. Non, mais par exemple, la dernière pièce que vous avez écoutée, c'était clairement des notes qui sont dans la même gamme. Donc,
Ah bah clairement, ça part d'une pièce existante. Donc, baroque en plus. Donc oui, ça, on est bien d'accord. Mais c'est pas du tout représentatif de mon travail. Je suis désolé, encore une fois, je peux... Venez voir les concerts. Alors, je peux vous parler de ce que je fais en ce moment. On peut peut-être terminer là-dessus. Donc, en ce moment... Donc, en fait, je suis directeur d'une compagnie hein, que j'ai créée il y a 15 ans, qui, au départ, était un label de disques, d'ailleurs, qui l'a été pendant 3 ans. Et puis il y a eu la grande crise du disque en 2002, donc ça s'est arrêté. Juste petite parenthèse, je faisais à cette époque-là ce que j'appelais des portraits phonographiques. C'est-à-dire que je proposais à des musiciens improvisateurs de choisir un lieu, quel qu'il soit, et j'allais les enregistrer pendant toute la journée. J'enregistrais tout ce qui se passait, et je faisais une sélection de moments enregistrés pendant la journée. Je ne faisais pas de mixage, je ne faisais pas de montage court, je sélectionnais vraiment des séquences, Et c'est pour ça que j'appelais ça des portraits phonographiques. C'était mon point de vue sur ce musicien ce jour-là, sur ce qu'il avait produit ce jour-là. Donc ça voulait dire que il pouvait y avoir sur le disque que de la musique, mais il pouvait aussi y avoir des moments d'échange. On allait déjeuner ensemble. Tout était enregistré. Hein. J'enregistrais tout, toute la journée. Et après, je faisais une sélection. Et ça a donné une expérience que j'ai vraiment trouvée intéressante avec une musicienne qui s'appelle Sophie Agniel, qui est pianiste, qui joue beaucoup du piano préparé, c'est-à-dire qu'elle met des objets dans son piano. Et elle a eu vraiment, je trouve, une très belle idée. Elle avait envie d'aller vers l'électroacoustique, mais elle n'avait pas envie d'utiliser les outils électroacoustiques. Et donc, elle m'a proposé de mettre le piano à queue dans une imprimerie en fonctionnement. Donc, on est allé dans une imprimerie communautaire à Paris. Et donc, on a loué un piano. Le piano était au milieu des ouvriers qui utilisaient des machines d'imprimerie, qui étaient en train de bosser. Hein. Et tout simplement, j'ai mis des micros un peu partout sur les machines. J'ai donné un retour pour que Sophie... Parce qu'une imprimerie, c'est très grand. Pour que Sophie entende bien les machines. Et voilà. Et elle a improvisé, en fait, avec les machines. Et ça donne une matière musicale qui est vraiment intéressante. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des moments de la journée où les techniciens ont quitté leur travail et sont mis à jouer avec leur machine, en fait. C'était assez drôle à entendre. Mais voilà, c'est une exploration sonore que j'avais trouvée vraiment intéressante. Bref, j'ai arrêté les disques et j'ai créé une compagnie. Et ma compagnie est allée vers une compagnie de création de spectacles vivants, en fait. Et donc, aujourd'hui, les spectacles qu'on propose, il y a ce spectacle qui s'appelle « La face cachée de la lune », qui est un succès qui me dépasse un peu. Moi, quand j'ai créé ce spectacle-là, je pensais qu'on allait le jouer une dizaine de fois. C'était un spectacle assez ambitieux, mais je pensais vraiment qu'on allait le jouer une dizaine de fois. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est l'album « Dark Side of the Moon », qu'on joue avec les systèmes de l'époque. On a sur scène deux enceintes JBL. On a une ligne totalement analogique pour la partie synthétiseur. Donc console analogique, synthé analogique, traitement analogique, donc des chambres d'écho à bande, des réverbères ressorts. On est vraiment dans du pur analogique. On a reproduit à peu près le dispositif qu'ils avaient en studio. Et on développe, l'idée de ce spectacle-là, c'est de faire découvrir, mon idée de départ, c'est de faire découvrir la musique expérimentale à un public large. Donc j'utilise Pink Floyd comme produit d'appel, les chansons de Pink Floyd, mais Dark Side of the Moon, ça dure 45 minutes, notre spectacle, il dure 1h30, parce qu'en fait, on développe toutes les parties expérimentales de l'album. L'introduction de l'album est beaucoup plus longue, Underrun est beaucoup plus long, Underrun, c'est fait uniquement avec des synthés, hein, est beaucoup plus long, on a rajouté tout un tas de moments d'improvisation sur système analogique. Voilà, donc ça c'est le gros spectacle qui tourne en ce moment et qui fait vivre la compagnie parce que c'est un espèce de carton, c'est Pink Floyd quoi, donc ça marche, mais j'ai pas de regrets parce que je rencontre le public après chaque spectacle et le public est très content de découvrir toute la partie expérimentale réellement quoi. Ça c'est une réalité que vous avez peut-être déjà constaté quoi. La musique expérimentale elle fait peur a priori, mais en fait quand les gens y ont accès, en général ils jouent le jeu à fond et ils aiment beaucoup quoi. Ils peuvent vraiment beaucoup aimer ça, il n'y a pas de réticence une fois qu'ils sont dans la situation. Donc il y a ça en ce moment qui tourne. On vient de créer un autre spectacle autour de Jean Jaurès. Donc ça c'est une des facettes du travail de la compagnie qui est assez développée. Comme je viens du théâtre, j'aime bien travailler avec le texte. Et je suis tombé sur un texte de Jean Jaurès que je trouve étonnant, qui est son mémoire de philosophie. C'est assez peu connu, mais il a été prof de philo, donc il a fait un mémoire de philosophie. Ça a été réédité il y a quelques années sous le titre « Philosopher à 30 ans » chez Fayard. Et si vous vous ennuyez, je vous invite à l'acheter et à le lire. Il est un peu chiant à lire, hein, c'est un mémoire de philo. Hein. Mais dedans, il dit des choses sur le son qui sont juste hallucinantes. Il parle beaucoup de son. Il revient sur le son très souvent. Il dit par exemple, un son nouveau, c'est la révélation d'une force nouvelle, d'une parcelle d'âme inconnue. Moi, ça me parle. Il dit... Qu'est-ce qu'il dit ?
Qu'est-ce que c'est un son nouveau ?
Ben, il parle de, vraiment, de, il imagine un son nouveau, un nouveau timbre, un son, une nouvelle production du son. Et quand il développe ça, il parle des hommes préhistoriques qui, tout à coup, ont découvert des sons qu'ils, eux, n'avaient jamais entendus. Donc c'est vraiment ça, c'est l'idée d'un timbre nouveau. Et il développe cette question-là. Il parle vraiment, à un moment, dans son mémoire de philosophie, de deux rapports à la musique. Un rapport qui est le rapport d'écoute classique à la musique, à une musique sur laquelle, qui est notre culture commune, qui répond à des règles harmoniques, rythmiques, sur lesquelles on est d'accord. Et il dit, c'est une musique qui est super agréable à écouter parce qu'elle nous met en relation avec des parties de notre âme qu'on connaît déjà. Et dit-il, il y a une musique plus expérimentale, de recherche, qui est peut-être plus difficile à écouter, mais qui peut-être nous permet de nous mettre en relation avec des parties de notre âme qu'on ne connaît pas encore. C'est pas mal quand même. C'est un bel hommage à la recherche, l'expérimentation dans l'art, je trouve. Quoi. Non, je vous invite vraiment à le lire. Il parle de la lumière, il parle de... C'est très étonnant, vraiment. Le son, c'est l'âme secrète des choses, se communiquant sans se livrer et pénétrant dans notre conscience sans en subir la loi. Voilà, vous avez 3 heures. Non, il y a comme ça quelques perles dans ce mémoire de philo. Donc, j'ai décidé d'en faire un spectacle. Donc, il y a un comédien qui est avec nous sur scène, qui n'incarne pas Jaurès, hein, mais qui... J'ai fait un montage d'extraits de son mémoire de philo et puis de un ou deux discours politiques quand même. Et sur scène, on est 4 instrumentistes. Il y a Cécile Maisonhaute qui fait du piano, qui est parfois traité avec ce système numérique dont je vous parle, là, sur Pyramix. C'est-à-dire que je fais des saisies en direct... Et je fais tout un travail de ralentissement assez comparable à ce que vous avez entendu sur le clavecin. Sauf que là, c'est fait en direct. C'est de la saisie en direct et c'est de la transposition en direct. Et donc, elle interagit évidemment avec ça. C'est un moment de duo. Et elle joue aussi un peu du synthétiseur numérique. Moi, je joue du synthétiseur analogique, des gants Larsen et de la basse. On a Eric Lorer qui joue de la guitare électrique avec une collection de pédales... assez étonnante, et un peu de guitare acoustique, et Eric Groslot qui joue de la batterie et des gongs. Alors, on a des gongs qui ont été faits spécialement pour le spectacle, dont certains sont en tôle d'ailleurs, qui sont des gongs énormes, hein, qui en plus dessinent une espèce de scénographie, et le sol et le plateau du lieu où on joue est recouvert d'écorce de cacao, ce qu'on utilise pour faire des paillis. Et le comédien a des micros au pied, évidemment, puisque c'est trop beau, le son de ses pas qui écrase les écorces de cacao. Donc le spectacle, au tout début du spectacle, c'est un des premiers sons qu'on entend, et nous on rentre en improvisation avec ça. C'est un spectacle qui couvre un champ musical qui est très large, avec des moments très très mélodiques, il y a même des citations de Debussy, on va du côté des Folies d'Espagne, pour ceux qui connaissent, Marin Marais notamment. Mais on a aussi des moments d'expérimentation totale, d'improvisation électroacoustique totale. On a des moments pop. C'est pour ça que je joue de la basse par moment. Voilà, c'est un spectre musical qui est très très large et c'est un espèce de parcours sonore où pour nous les mots de Jean Jaurès viennent se glisser dans la musique. Quoi. Je me suis jamais adressé à Benoît Marchand, le comédien, comme à un comédien. Je me suis toujours adressé à lui comme à un musicien. Je n'ai jamais demandé d'avoir un travail de... Même sur la compréhension du texte, on n'a jamais parlé du sens du texte. On a vraiment toujours abordé le texte dans son rapport à la musique et au son. Donc ça, c'est un spectacle qui tourne actuellement. On a donc développé des concerts sous casque. Ça, je pense que vous avez remarqué, c'est un truc qui est en train de se développer énormément. Voilà. Nous, c'est un truc qu'on travaille depuis très très longtemps. Je dis pas qu'on était les premiers, j'en sais rien, puis je m'en fous, mais voilà, c'est quelque chose qu'on développe depuis très longtemps, avec cette idée que pour moi l'intérêt de travailler sous casque, c'est de pouvoir aller explorer des sons qu'on ne peut pas travailler sur enceinte. C'est-à-dire que sur les concerts sous casque, j'ai tout un tas d'objets sonores, j'ai des micros sur la table, et je vais aller chercher des sons. Si on les diffusait avec une sono classique, on aurait des Larsen instantanément. C'est-à-dire que je vais chercher une espèce de système de zoom sonore. C'est une manipulation classique en électroacoustique, sauf que là, ça permet de le faire en concert. Voilà. Donc d'aller vraiment chercher des tout petits sons. Voilà, j'aime beaucoup le son de ma barbe, par exemple. voilà, qui là ne vous parle pas, mais qui, voilà, quand on balade un micro dedans, il y a tout un univers sonore qui se développe. On va chercher des sons d'eau, des sons de tout petits frottements sur des tables, sur des objets, etc. Voilà, donc ça, et c'est aussi des formes, c'est des formes sur lesquelles on est trois en général, trois musiciens, et à tour de rôle, on prend la parole pour dire certains poèmes. Ça dépend c'est une forme qui est assez fluctuante selon le lieu où on joue, selon les demandes qu'on a. On va travailler sur des textes poétiques, ça peut être des textes de Henri Michaud. Je vous invite à lire Premières impressions de Henri Michaud. Henri Michaud, il est connu pour sa poésie, il est connu pour ses tableaux. Mais en fait, pendant une année de sa vie, il s'enfermait toutes les nuits pour faire de la musique. Avec une onde Martenot, il appelle ça un piano, mais c'est une onde Martenot, un violon et des percussions africaines. Et il s'enregistrait sur phonographe. Et la seule personne qui a entendu des phonos, c'est Pierre Boulez. Voilà, qui l'a fortement incité à arrêter de faire de la musique. Et donc, il a détruit tous ses rôles.
Lequel des deux a arrêté l'autre ?
C'est Henri Michaud qui a demandé à Boulez d'écouter. Il côtoyait un peu ce milieu-là. Hein. Il a organisé des concerts à Paris de Chelsea. C'était un fervent admirateur de la musique expérimentale, de recherche. Et donc, pendant cette année-là d'expérimentation musicale, il a écrit beaucoup sur la musique. Et il y a un recueil qui s'appelle « Premières impressions », où il y a tous ses écrits autour de la musique. Et c'est vraiment à découvrir, c'est très très beau. On travaille aussi sur des poèmes érotiques, notamment de Ronsard, parce qu'un autre intérêt de l'écoute au casque, c'est comme si on était à proximité de chacun des spectateurs. Donc murmurer un texte érotique à l'oreille d'un spectateur, ça génère des choses assez intéressantes. Et on a travaillé un petit peu aussi sur... Alors ça, on n'a pas le droit de le faire, donc on ne l'annonce jamais, mais on le fait de temps en temps, sur des extraits du texte du film « Les ailes du désir ». Je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est un film à voir. Et il y a notamment un poème de Peter Handke dedans qui est très beau. Et il y a quelques dialogues que je trouve très très beaux. Donc voilà, donc ça c'est une forme qu'on tourne. On a un autre spectacle tout public qui s'appelle « Voyage au centre de l'oreille ». Donc c'est pareil, c'est une forme pour 100 spectateurs. Tous les spectateurs ont des oreilles, ont des casques. Et j'ai devant moi sur la table un aquarium équipé d'un casque avec deux micros à la place des écouteurs. Et en fait, ils entendent tout ce que je produis comme s'ils étaient juste à côté de moi. Et c'est un spectacle qui mélange musique. Il y a tout le temps de la musique et des moments où j'explique le fonctionnement de l'oreille, notamment ce que je vous ai expliqué sur l'écoute dans l'espace, etc. Voilà. Et le prochain projet, c'est un espèce d'hommage à Pierre-Henri, où on va jouer cette fameuse messe pour le temps présent. Mais on va la rejouer, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on va la jouer en direct. C'est-à-dire qu'il y aura des musiciens, instrumentistes qui seront là, et on va refaire toute l'électronique. Donc, parce que, en fait, ce qui est très agaçant, pour terminer sur ce sujet-là, ce qui est très agaçant, c'est que c'est une pièce qui a été faite en 1967, que c'est une pièce monophonique, que la prise de son n'est pas terrible, et donc à écouter aujourd'hui, comme ça, diffusé sur plein de haut-parleurs, c'est très très moche. C'est juste très très moche. Ça n'a aucun intérêt. Et j'espère que ça va avoir un intérêt de la rejouer, de la reconstituer, de la rejouer. Et voilà, on a l'autorisation de Pierre-Henri qui va même me prêter les appareils qu'il a utilisés pour faire ce fameux son électronique de la pièce. Voilà. Ça, c'est le prochain projet pour 2015. Il n'y aura pas que ça dans le spectacle, il y aura aussi une création qu'on fera nous. Mais ça se terminera par la messe pour le temps présent, faite en direct. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ce qu'on s'est dit. Ouais, de toute façon, on fait un break. Et puis
question
après. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait de break, pardon.
Non.
C'est un peu emballé.